Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Sherbrooke.
À Sherbrooke?
À Sherbrooke.
À Sherbrooke. Je suis tellement habitué de le dire, c'est rendu... c'est ça. Donc, on est live devant le public et la foule en délire qui est là.
Oui! La foule! Il y a du monde en place pour notre 150e.
150e épisode.
150e épisode quand même, hein?
Ça fait presque 5 ans qu'on a lancé ça.
Ouais. Pourquoi qu'on est à Sherbrooke, en fait? Je pense qu'on peut juste le dire.
Oui, bien, il y a un gros historique. Tu sais, moi, d'ailleurs, c'est la première fois que je viens à Sherbrooke, je veux le dire.
Comme
c'est...
ever de ta vie.
Oui, ever de ma vie.
On vient de passer Louis Lunchonnette pour les connaisseurs. Hein?
Chez Louis. C'était pas pire. On a vu les espèces de petites
statues. Ça sent mon estomac à la fin de
podcast. Ah, mais là, tu cherches le trouble. Tu as rajouté du ketchup sur ta poutine qui a déjà du smoked meat en extra.
Yeah, man.
Cherche le trouble.
Vas-y, enchaîne.
Mais, il veut plus en entendre parler. Il veut plus d'images. Comme j'ai mal au ventre déjà, j'arrête d'en parler. Qu'est-ce qu'on avait à Sherbrooke? Ah, j'ai pas vu. T'as une statue ici, Rémi?
Ouais, c'est ça, devant l'hôtel de ville.
À la Rocky.
T'as ma grosse face, là.
Ouais,
moi, j'étais en boxeur. C'est bien connu que je fais du montage en boxeur. Fait que ma statue est en boxeur aussi, là.
Pour revenir au A de l'alphabet, c'est que Rémi, en fait, tu viens de Sherbrooke.
Je viens de Sherbrooke, oui, exactement.
Puis Paul et moi, on vient de Québec, en fait. Fait que le podcast 100% à Montréal, c'est un peu un tag qu'on devrait questionner plus, en fait. On devrait.
Faudrait qu'on fasse un épisode spécial.
Ça fait 150 podcasts qui ont un malaise, là. Il fallait le dire tout haut.
Pascal, il veut détruire le podcast ce soir.
Pourquoi qu'on est à Sherbrooke aussi? C'est parce que Vicky.
Oui, c'est ça. Parce que Vicky Langlois, qui est comme l'une des cofondatrices de la capsule à Sherbrooke, au 38 Wellington Sud. Donc, c'est ça, c'est une de nos premières fans, en fait, depuis le début. Elle nous écoute, elle commente ça. Puis, en fait, moi, c'est drôle, j'allais chercher justement les archives. C'est l'épisode 11 qu'on a fait pour toi. Parce que tu nous avais dit que...
Donc, il y a 139 épisodes,
ouais, si mon calcul est bon. Tu nous as dit, je cite, « Ce n'est pas tant le ton de l'émission que j'adore, que plutôt les films défendus. C'est assez facile d'avoir un consensus autour de Kubrick ou des studios Ghibli, mais défendre un blockbuster qui en vaut la peine, c'est autre chose. À qu'un épisode sur les plaisirs coupables? » L'épisode 11 était pour toi. Puis d'ailleurs...
Je vais pleurer, je pense.
D'ailleurs, on devrait faire un numéro 2 bientôt.
Plaisir coupable,
là?
Ouais. Ouais, c'était vraiment cool, ça.
Ça pourrait être le premier.
J'avais parlé dans Howard the Duck.
Ah, ben justement, je voulais vous dire si vous en souveniez. Donc, tu te souviens que c'est
Howard the Duck? Howard the
Duck, oui. T'avais fait un crush au début sur les Hellraiser, puis sur les films d'action.
Ouais, les films slasher, là.
Ouais. Puis après ça, Howard the Duck. Moi, j'avais parlé de Pokémon, le premier film. qui est quand même, tu sais, le premier film est quand même pas pire. Il est quand même le fun.
Oui, surtout le segment sur Pikachu au début. Il y a comme un court-métrage de Pikachu, là, où il se passe rien.
Le court-métrage est pas mal nice, au parc. Toi, est-ce que Pascal, tu te rappelles?
Je m'en rappelle pas, mon plaisir coupable pour le bananier.
Ça doit être un truc super intello, finalement. C'était pas tant coupable.
Je sais pas.
Intello, je sais pas, c'est Ernest à la chasse aux monstres.
Ah, pour vrai?
Ah, ouais.
Amen.
T'avais...
Ça, c'est bon, ce film-là.
T'avais défendu ce film-là. Donc, c'est pas mal, quand même.
OK, bon.
Donc, c'est ça. On est venu donc à la capsule pour enregistrer live. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, en fait. On voudrait faire plus d'épisodes live, mais c'est toujours un peu une question de temps puis de se coordonner.
C'est rare qu'on enregistre ensemble.
Hein? Oui, déjà.
Puis ce qui est malade aussi, là, c'est qu'il y a un cercle qui s'est fait parce que la capsule se trouve dans les anciens locaux du Téléphone Rouge. Puis le Téléphone Rouge, les dernières soirées Kino que j'ai participé, c'était au Téléphone Rouge. Donc, je suis de retour. Puis Kino Estrie est rendu dans la capsule qui est l'ancien Téléphone Rouge. C'est malade.
Voilà. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode, en fait, on fera pas grande actualité du cinéma. C'est plus... c'est notre dernier épisode de l'année. On prend une pause de peut-être un mois et demi. On fait un peu le bilan de l'année. Les films qu'on a vus, nos bilans personnels, tout ça. Mais c'est sûr qu'on se réserve le droit aussi de voir beaucoup de films d'ici la fin décembre pour écrire nos tops, parce qu'on écrit aussi sur pointdevue.net. Donc, on va écrire nos top 10 comme à chaque année. Puis moi, j'en ai plein à voir.
Oui, puis évidemment, c'est le temps où, tu sais, chaque semaine, je veux dire, il y a les films, des quote-unquote à Oscar aussi qui sortent, veux, veux pas. Tu sais, je veux dire, La La Land sort le 25 décembre, donc moi, c'est impossible que je sorte, par exemple, une liste de fin d'année avant d'avoir vu La La Land, tu sais. Ou le Silence of Scorsese, on
ça,
va donc le manquer
janvier,
parce que celui-ci, il sort
le 9 janvier
ou quelque chose comme. Fait que notre liste, finalement, va être par défaut...
toujours troué, il y a toujours un truc...
Le nouveau film
de
Scorsese. Tu sais, le Pape l'a vu, mais l'équipe de Point de vue, eux autres, peut-être pas.
Le Pape l'a vu?
Oui, Scorsese. Il est allé présenter son film au Vatican devant le Pape.
Hey, non, je savais même pas, là. Prenez ça live.
Comme Mel Gibson aussi, qui avait présenté La Passion du Christ au Pape. Puis,
tu penses que François va faire un top 10? Non.
Le top de l'année du Pape!
Je sais pas, hein? Mais
OK, rapidement, les top 5 des meilleurs papes. Pascal aime beaucoup les listes.
C'est ça, ceux qui ne savent pas. Hey, je peux-tu parler d'une chose?
Ben, oui.
Peux-tu parler d'un compétiteur, en fait, Paul? Je te l'ai dit off-record, mais la revue 24 Images, en fait, qui ont lancé leur podcast cette année aussi, ça, c'est une belle aventure. Donc, on a officiellement de la compétition. On s'entend, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait le même ton que nous, là. Mais c'est bien correct, puis il y en a pour tous les goûts. Et moi, je fais la prise de son aussi pour le podcast 24 Images. Et de fil en aiguille, ils m'invitent à leur blog Cinéaste Invité, puis dans le mois de décembre. Fait que je vous vends une mèche, mais oui, ma première entrée sur le blog de 24 Images de Cinéaste Invité, ça sera une liste, mais ce ne sera pas une liste de films. Fait que vous allez voir, ça risque d'être en ligne à la mi-décembre, voilà. Mais oui, c'est ça, moi, je suis comme le fan numéro un.
Traître.
Je suis comme le fan numéro un des listes. Puis, en fait, c'est que le mois de décembre, c'est euphorique parce que c'est vraiment le moment où on dirait que tout déboule. Tu sais, tu le sais tout le long de l'année que tel ou tel film, tu as envie de le voir, mais là, on dirait de l'avoir sur le nez dans plusieurs listes, à droite, à gauche, de tout partout, de toutes sources. On dirait que là, c'est... T'as juste envie de consommer du cinéma. T'as envie de t'encabaner. C'est l'hiver, c'est décembre, il fait noir, je sais pas, puis t'as envie de juste... t'es chuggé le plus de contenu cinématographique possible. Puis c'est un beau temps de l'année pour ça. T'sais, on dirait qu'on se sent pas mal, même qu'on dirait que c'est un devoir d'en écouter plus, d'en écouter beaucoup.
Même d'y aller en famille, aller voir des films.
Exactement. Puis La La Land, encore une fois, pour dire, moi, j'ai des très beaux... on a une belle tradition d'aller au cinéma. Nous autres, on y va encore en famille. Puis on est quatre enfants, on est une famille au complet. Puis avec des cousins et des cousines, tout ça. On avait été voir genre Wolf of Wall Street un 25 décembre, qui était sorti aussi un 25 décembre.
Sans famille, c'est le fun.
Non, mais c'était frais. Oui, c'était fun, mais que c'était le fun. Puis là, ma mère a trouvé que c'était un peu... bon, mais c'est correct, tu sais, on en parle. Puis, tu sais, c'est ça qui, on dirait, le côté rassembleur du cinéma. Puis, tu sais, c'est pas un hasard, je pense, que tout arrive un peu en même temps au mois de décembre. C'est vraiment le moment des partages des films, le partage. Parce que c'est quoi une liste, au final? C'est simplement de dire au monde, check ça, c'est bon, tu sais, c'est ça, ça m'a fait triper, puis j'espère que ça va te faire triper. Au final, c'est juste ça, tu sais.
Ouais, puis c'est aussi, c'est qu'à fin décembre, c'est un peu, on se fait un bilan personnel, on réfléchit à ce qu'on a fait dans l'année, on réfléchit aux films qu'on a vus, la musique qu'on a écoutée, tout ça. Donc, tu sais, au final, c'est arbitraire de se dire, OK, bon, ben, telle année, tu sais, on fait un top 10 à chaque année, pourquoi pas aux 6 mois ou quelque chose comme ça.
Mais... Ouais.
Mais c'est une tradition, puis on est content d'y prendre part.
Et c'est une tradition, et je plonge tête première, et je vais continuer d'essayer d'être le premier à dégainer ma liste cette année, donc pour de l'équipe de Point de vue. Et rappelle-nous donc, c'est quoi les films qui ont topé notre palmarès maison de Point de vue?
Justement, ouais, moi j'ai un jeu pour nous aujourd'hui, parce que je voulais qu'on s'amuse aussi.
C'est pas juste des talks intelligents et importants.
Non, c'est ça. Même s'il y en a beaucoup, évidemment. Donc, j'appelle ce jeu-là « Une chance qu'on est amis ». Puis en fait, j'ai tous les podiums des dernières années, donc ça, c'est dans le fond parce qu'on fait tous des tops individuels dans l'équipe, puis après ça, moi, je fais un tableau Excel, je calcule les points, 10 points pour le numéro 1, 1 point pour le numéro 10, puis on fait comme, OK, quel film unanimement dans l'équipe, tu sais, c'est les meilleurs films de l'année. Puis là, j'étais allé chercher tous les tops qu'on a fait dans les dernières années. Puis j'aimerais ça qu'on voit s'il y en a certains de nous qui ont peut-être pas vu encore des films de ces listes-là.
Hey, moi, ça se peut en plus. Puis il y en a, j'ai rattrapé cette année.
Puis ça, c'est ça. Puis s'il y en a qu'on a toujours pas vu, c'est comme des points de la honte.
Ouais.
Puis lui qui est le plus honteux va payer la bière aux autres.
Hey, moi, cette année, j'ai vu pour la première fois, juste le dire, j'ai vu La Vie d'Adèle pour la première fois.
Sérieux?
Ça a pris du temps. Ben oui, ça a pris vraiment du temps. Puis.
Tu l'as vu.
C'est comme, okay. C'est une tâche, là. C'est un 3 heures qu'il faut que tu t'assoies devant la... Non, mais tu sais, faut que tu t'assoies devant ta télé pendant 3 heures. Tu fais pas, je vais l'écouter un petit bout, là, tu sais.
J'ai écouté Show, il y a 2 semaines.
Ouais. 9 heures de documentaire, ça.
Non, mais pour vrai, moi, je l'embarque dans ton jeu.
Vas-y.
Donc, lui qui a le plus de points de la honte. Puis, je pense que plus haut est le film, plus de points, genre, de honte que
t'as. Plus de honte que
t'as. Fait comme les cumulatifs. Fait que si t'as pas vu numéro 1 de 2012, là, c'est 10 points de honte. Si t'as pas vu numéro 10, c'est 1 point.
OK, parce que t'as plus d'années pour l'avoir vu. Genre.
Ah ouais?
Non, non, mais la position par rapport...
OK.
T'sais, c'est numéro 1, vraiment.
Je suis angoissé. Je suis vraiment angoissé.
Fait que là, moi, je compte sur votre honneur aussi pour dire oui, pour être honnête, on l'a pas vu. Donc, en 2012, le podium de Point de vue, il y avait nous trois qui avions voté, parce qu'à l'époque, on était juste nous trois.
Oui, il y avait pas l'équipe élargie à l'époque.
Numéro 1, Moonrise Kingdom de Wes Anderson.
Ah ouais.
On l'a tous vu, évidemment.
J'ai tatoué sa cheville à cette heure.
Ah ouais?
Ouais, j'ai un tatou de Moonrise Kingdom.
Fait
que tu l'as vu. Ah oui, c'est vrai, c'est
vrai. Non, en fait, je vois juste que les postures étaient beaux.
Il écoute, il retourne sur le tatoueur. C'est quoi ta politique de retour, là, tu sais?
OK.
Numéro 2, Holly Motors. Numéro 3, The Master. Vous m'arrêtez, hein, si vous ne l'avez pas vu. Numéro 4, Anna Karenine. Numéro 5, Les Misérables. Numéro 6, Lawrence Anyways. Numéro 7, Beast of the Southern Wild. Numéro 8, Amour. Ça, je ne l'ai pas vu.
Oh!
Donc, 8, ça équivaut à 3 points de la... Dominique, peux-tu compiler les points? Tu peux-tu les compter? OK. Moi, j'ai 3 points d'entre. Numéro 9, de rouille et d'os. Numéro 10, rebelle.
Vous j'ai avez tout vu.
Tous les 10.
Ouais, j'ai tout vu ça.
En 2013, il y avait...
C'est comme stressé pour vrai.
En 2013, il y avait nos trois, ainsi qu'Olivier Bouchard et Delphine Larose, qui ont voté.
Ah oui, c'est vrai.
Numéro 1, Before Midnight. Numéro 2, Wolf of Wall Street. Numéro 3, La vie d'Adèle. T'es chanceux. Numéro 4, The Dirties. Ça, je ne l'ai pas vu
tu
encore.
Tu l'as pas vu.
4, ça fait 19, 7 points.
C'était 10 points de la honte, là. Ouais. Shit,
non, 5, Vic et Flo, Un vu un ours. 6, Gravity. 7, Ex-Echo, Upstream Caller, Dallas Buyers Club.
J'ai pas vu Upstream...
Upstream Caller. 4 points, ça.
Catherine Giguère contre mes points.
OK.
4 pour
4 points. Numéro 9, L'Inconnu du Lac, ça, je l'ai pas vu. C'est 2 points de plus. Numéro 10, Ex-Echo, The Grandmasters.
Et... Hey, j'ai pas vu ça.
Ah, 1 point. Et Why Don't You Play in Hell?
Puis Why, don't... Puis, Why Don't You Play in Hell, j'ai pas vu.
OK, 1 point de plus. Okay, ça, on a 6. Toi, t'as tout vu, Pascal.
T'as tout vu ça.
Ah oui.
2014, là, on avait plein de critiques dans l'équipe. Maintenant, c'est ça, on est une grosse
gueule. Ah, c'est à partir de là que là, on a
là, fait ça partit en couille, puis là, j'ai commencé à arrêter de suivre moi aussi.
Donc, nous trois, Olivier Bouchard, Delphine Larose, Samy Gnaba, Charlotte Benjamin, Mathieu Mullins, dis-je bien, et Benjamin Pelletier. Numéro 1, Mommy. Numéro 2, Boyhood. Numéro 3, Whiplash. Numéro 4, Birdman. Numéro 5, Jaja.
Numéro j'ai pas vu ça. Ah. C'est quoi?
Yaoja. Tu sais, le western en 4-3.
4 tiers avec les coins arrondis, super contemplatif.
Incroyable,
c'est
celui-là.
C'est
6 points de la honte.
6 points de la honte.
C'est ça, il y a un point de la honte de même pas savoir.
C'est vraiment pas c'est quoi.
Par contre, moi, je pourrais pas nommer le réalisateur. C'est qui a réalisé Jaja?
Rajoute pas un point extra.
Non.
Moi, pas ça quand même.
J'ai plus son nom sur le
mais non, mais vraiment, si on peut, tu faire une petite parenthèse?
Juste
tant qu'à faire, effectivement, ça a l'air d'être un des films que les gens connaissent le moins. Là. C'est un genre de western contemplatif. Ouais. C'est ça avec le look.
Super
très,
beau. Là.
C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ouais. Puis ça joue justement sur un peu le rêve. Il y a même un genre de troisième acte, évidemment, je ne compterai pas l'histoire, mais un genre de troisième acte même qui va dans des zones très métaphoriques. Tu sais, c'est juste vraiment un espèce de voyage un peu semi-réveillé, mais c'est superbe, en fait. Puis c'est avec Viggo Mortensen dans un rôle, tu sais, comme on l'a vraiment jamais vu. Fait que,
tu parles pour vrai, tu aurais pu me pitcher un film là, qui existe pas, puis je t'aurais cru. Là.
Ben non, mais c'est ça. Fait que Jaja, du réalisateur, par contre, que ça nous échappe, donc malheureusement.
6, Citizen 4, 7...
J'ai pas vu Citizen 4.
Oh, 5 points de plus.
Tabarnak! Ça va pas bien.
7, The Grand Budapest Hotel. 8, Saint-Laurent. Ça, je l'ai pas vu.
J'ai pas vu Saint-Laurent.
Pas vu non plus.
Oh, personne l'a vu?
Personne l'a vu.
C'est parce qu'on a d'autres membres dans
l'équipe. Ça s'annule, okay.
Mais
bon, 3 points de plus.
Ça, c'est mes 3 points, mes 3 premiers, ça.
OK. Numéro 9, The Raid 2. Ouais. Ex-Echo avec Gone Girl, de David Fincher. 2015, l'année dernière. Numéro 1, Carole. Numéro 2, The Assassin.
Tabarnak! C'est quoi, c'est 9 points, ça?
9 points.
9 points.
OK. 3 Ex-Echo, Ex Machina, Youth.
OK.
5 Mad Max Fury Road. 6 Inside Out. 7 Anomalisa. 8 La Loi du Marché. Ça, je ne l'ai pas vu. 3 points de plus. 9 The Lobster. 10 Le Fils de Saul.
Je ne l'ai pas vu.
Donc, 1 point de plus.
Je suis rendu à 30. Hey, j'ai 30 points.
Fait que là, c'est qui a le plus de points là?
Moi.
3 points, moi j'ai 18 points.
J'ai 30
points.
Mais non, mais là, écoute, avec... c'est quoi, vraiment le numéro 2 qui vient de passer? Là?
C'est The Assassin.
The Assassin, ben, c'est comme, là, j'ai pogné 9 points d'un coup. Là.
C'est tout un film, puis c'est pas... Ouais, je pense pas que c'est un hasard.
Tu je donne mon micro à quelqu'un d'autre? Là?
Non, mais merci pour la bière, Rémi.
Mais le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, ça, c'est vraiment drôle.
C'est drôle que personne de nous l'ait
C'est vraiment
vu,
drôle là. Qu'aucun de nous trois l'ait
vu. Je pense que c'est Olivier puis Samy qui l'avaient mis comme
l'avait mis très,
un
très haut dans la liste, mais c'est un film qui avait beaucoup divisé sur la croisette, mais beaucoup...
Ben, Nocturama cette année aussi, là, d'ailleurs.
Ben, ouais, ben Bonello à la base aussi, je sais pas si vous avez vu Souvenir de Maison Close, là, mais c'est un film, c'est tellement sans compromis, ce film-là, c'est sur un bordel, finalement, des prostituées, mais il y a comme un genre de... À un moment donné, ça s'en va dans des zones juste complètement, genre batshit crazy, là, complètement, avec un épilogue dans une autre époque. Tu sais, c'est vraiment un genre de film complètement libre, c'est vraiment, vraiment superbe. Moi, j'avais été beaucoup, beaucoup impressionné par le film. Fait que Saint-Laurent, c'est tout à coup... de ma to-watch liste. Bravo. Merci pour ça, donc.
Ben,
encore
super,
une fois, tu vois
super.
Les listes, à quoi, qu'est-ce
voilà.
que ça fait, les listes?
Ça
nous donne la motivation Pascal. De consommer du cinéma de qualité et du contenu de qualité. Bravo.
Merci, Pascal.
Exact.
Avant qu'on se lance dans les films qu'on a vus cette année, j'aimerais ça aussi qu'on fasse un rapide tour, peut-être personnel, d'horizon. parce qu'il y en a ici qui ne nous connaissent pas, qui ont peut-être qui connaissent pas du tout point de vue, qui sont peut-être trompés de porte, on ne sait pas. Mais
dans les 300 personnes qui nous regardent présentement dans la salle?
Ouais, moi, je dirais plus 350 à vue de nez, là, mais je ne suis pas bon pour calculer les foules.
100 personnes. Les 100 personnes, 100 personnes qu'on a dit,
c'est ça? Non, c'est ça, 100 personnes. Oui, c'est ça. Alors, peut-être juste se présenter rapidement qu'est-ce que vous avez fait dans l'année, un peu vos projets. Ça a été quoi 2016 pour vous? Je ne sais pas, Pascal, tu veux commencer?
Mais à la base, en fait, aussi, on peut parler un mini peu de la jeunesse parce que 150, c'est quand même une rétrospective, je veux pas, pour nous aussi. T'sais. Ça fait drôle parce qu'on se célèbre un peu, mais pourquoi pas? Je pense qu'on l'a rendu à 150, Chris, on le mérite. Non, mais juste pour dire, c'est ça, c'était carrément ton idée de nous aborder, les gars, un podcast. Moi, je pense que je savais même pas c'était quoi un podcast il y a 5 ans, pour vrai, quand tu m'as abordé. Puis, parce qu'à la base, en fait, moi, je suis cinéaste. Il y a 5 ans, je ne me serais pas affiché autant clairement comme tel. Mais maintenant, vraiment, surtout 2016, quand tu me parles de rétrospective, moi, 2016, ça a été une année où j'ai presque que gagné mes sous, donc ma vie, en faisant de la réalisation. Donc ça, déjà, moi, c'est une immense victoire personnelle pour moi. Mais le côté cinéphile a toujours été vraiment au cœur de ma démarche. Tu sais, Paul, tu le savais, on se connaissait de l'université, de Concordia.
Ben,
on est
trois,
des amis,
en fait,
on est des amis rencontrés à Concordia. Puis ça vient finalement de notre cinéphilie. Puis juste une mini-parenthèse, moi, c'était hallucinant de voir à quel point à Concordia, je veux pas citer personne, puis je veux pas non plus être condescendant en disant quelque chose comme ça, mais... C'était fou à quel point il y a beaucoup de cinéastes en herbe ou en devenir qui ne regardaient pas ou très peu de films.
Moi, c'est comme un musicien qui n'écoute pas de musique. Ça n'a pas rapport.
C'est ça, je comprenais comme pas. Puis on dirait que maintenant, on est capable aussi de regarder, là, 5 ans plus tard, tu sais, aussi plus tard de la graduation, qui est-ce qui travaille encore. Puis je pense qu'un dénominateur commun, c'est énormément l'amour du médium, l'amour du cinéma. Je pense que tous les gens autour de nous, autour de moi, qui étaient les plus férus de cinéma, les plus cinéphiles, ben guess what, c'est eux autres qui sont, tu sais, encore, qui sont au cœur, que ce soit devant, derrière la caméra ou, tu sais, au niveau critique ou tout ça. Fait que vraiment l'amour du cinéma qui nous a... Mais moi, à la base, je suis, comme je dis, maintenant plus du côté cinéaste, mais la cinéphilie, c'est impensable pour moi d'arrêter de regarder
ça,
des films.
Toi-même, tu ne sépares pas nécessairement les deux.
Non, puis l'un nourrit l'autre, je veux dire, si tu ne gardes pas complètement au fait. Puis il faut que les films, les crises de bons films, ils te sortent de la salle énergisé, tu sais.
Ouais.
Moi, quand je regarde un film, maintenant, veux pas, tu es comme... Ah, j'aurais donc aimé faire ce film-là, ou tu sais, puis ces films-là, ils te parlent à un autre niveau. Et, tu sais, donc, c'est pas des films qu'on peut critiquer d'une façon aussi objective, parce que je veux pas, on a un biais en travaillant nous-mêmes derrière la caméra, mais putain, tu sais, ça les prend ces films-là qui te dépassent puis qui te disent, ah, il me semble qu'il va falloir que je fasse un meilleur film la prochaine fois, tu sais, parce que ce film-là, il était juste parfait, tu sais.
Ouais,
donc,
dans un festival, tu tapes 30 films dans le festival, puis tu sors, on dirait que tu... C'est encore plus important de faire des films après, mais tu sors, puis c'est comme...
C'est sûr.
Te crinque, là.
Fait que bilan personnel, donc, ça a été une année de réalisation pour moi, les amis. Fait que voilà, juste...
Tu veux en dire un peu?
Je suis en montage d'un long métrage qu'on verra en salle quelque part.
Comme tout gêné,
Est-ce qu'on peut nommer le film?
Ça s'intitule Les faux tatouages. C'est un scénario de fiction que j'ai écrit il y a un an, jour pour jour, j'étais encore en écriture. Puis ça a vraiment bien déboulé, le financement a déboulé, puis tout ça. Puis on a tourné en septembre. Puis là, on est en montage. Le montage va... bon train, puis il va être fini pour les festivals en 2017. Là, on verra où est-ce qu'il va atterrir.
Est-ce que t'aimerais ça venir le présenter à la capsule en 2017?
Ça serait cool. C'est sûr. Non, mais juste pour ça, c'est, disons, le gros projet. Il y a d'autres choses à raconter, mais ça sera tout pour moi.
Super.
Pour pouvoir parler des films des autres, parce que c'est fun de parler des films des autres.
Bon, parfait, très modeste, Pascal.
Mais non, mais c'est pas...
Toi, Rémi, ton année 2016...
Moi, année de montage, en fait, contrairement à Pascal, j'ai beaucoup fait de travail monté pour la télé, là, fait que ça a été une job plus régulière, disons. J'en avais besoin un peu, là, une petite année pour me restabiliser. Mm-hmm. J'ai tourné 2 courts-métrages, là, un en kino, puis un pour le plaisir à l'extérieur de kino, qui n'est pas encore fini, en fait, mais que... Je vais finir bientôt. Là,
j'ai encore en VHS.
Un film tourné tout en VHS qui va se finir. J'ai un tournage la semaine prochaine. Fait que c'est, d'après moi, en février, va être fini. Puis après, je vais essayer de voir où je l'envoie. Là, mais ça va être quand même cool comme projet. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner moi-même. Je sais pas le produit fini, où ça va se rendre. Je vais le pousser à fond comme ça.
Puis si tu as du financement, tu vas peut-être pouvoir faire une version Betamax pour avoir
un peu meilleur. VHS, c'est de l'UHD, je te jure.
À quand le Laserdisc, Rémi?
Puis en plus, c'est une parenthèse vraiment pas rapport, mais on checkait les vinyles, puis on est tombé sur, genre, ma blonde, elle tombe sur un laserdisc, puis elle savait pas que c'était un laserdisc. On a fini par l'acheter parce qu'il était tellement beau que là, on a un laserdisc chez nous qu'on pourra jamais regarder de Sleepers de Woody Allen, mais là, il est beau, là, c'est comme un bel objet.
Belle parenthèse.
Ça, c'est tellement inutile. Et puis moi, cette année, sinon, j'ai quitté la direction de Kino. C'était ma dernière année comme directeur artistique à Montréal. Ça faisait un 4 ans et demi là, quand même que j'étais bénévole au sein de Kino pour pouvoir... c'est ça, là. Mais tu sais, je quitte pas Kino définitivement. Je vais pas arrêter de faire des films à Kino. Mm-hmm. Je quitte juste l'organisation pour pouvoir faire d'autres choses autour puis faire des films à Kino, faire des projets à travers Kino. Plus participer à Kino, en fait, que gérer Kino. J'ai fait un cabaret cette année, mais c'était ça. C'était mon dernier dans la direction. Mais c'était... c'est le fun, là. C'est un chapitre qui se tourne, là. C'est quand même une grosse partie de ma vie. Là. Je vais pleurer. Là. Mais de la musique de violon.
Ouais. Cool. Ben moi, l'année 2016, moi je suis pas cinéaste. Donc, je suis toujours aux études. Je poursuis les études à l'Université de Montréal à la maîtrise. Ça va très bien de ce côté-là. Point de vue, ça continue toujours. Puis, j'ai participé avec des amis. On a lancé le festival Plein Écran, qui est le premier festival au monde sur Facebook. Puis en gros, ça, c'était du premier...
Qui n'a pas de frontières, d'ailleurs.
Qui n'a pas de frontières. C'était du 1er au 8 décembre, ça vient tout juste de finir. On dirait que je suis encore... Genre, j'ai pas eu le temps d'avoir le recul de me dire comme... tu sais, est-ce que j'ai appris cette expérience? Est-ce que... Ben oui, là, mais ben, je veux dire comme... Quand même. À quel point... Tu sais, il n'y a pas eu encore la poussière qui serait tombée pour vraiment me rendre compte de... OK, on a fait tout ça. C'était quand même un bon succès, tu sais, on annonçait un peu les chiffres, puis bon, avec les chiffres Facebook, il faut en prendre puis en laisser, là, c'est pas comme, ça vaut pas autant qu'un billet de cinéma dans une salle.
Non, évidemment, mais...
Mais on a quand même, tu sais, il y a eu plus de 700 000 visionnements des 24 courts-métrages québécois, 1,5 million de personnes qui ont été atteintes dans 50 pays.
Non, exact, mais je veux juste faire une mini-parenthèse parce que mon court-métrage, Blonde aux yeux bleus, faisait partie de la programmation. Juste pour dire, la plateforme, oui, elle est virtuelle, mais moi, la fameuse inbox cachée de Facebook, là, où tu as des fois des messages un peu creep, genre...
Des demandes filtrées.
De je sais pas qui, je sais pas où. Là. Non, mais finalement, moi, j'avais des messages des gens, « Bonjour, Monsieur Plante, votre film. » Puis je trouvais ça vraiment beau, puis je prenais le temps, j'ai répondu à tous ces messages-là, des gens, de mes amis qui ne l'avaient pas vu, tout ça, juste pour dire que ça a engagé quand même, parce que, tu sais, un visionnement, c'est très abstrait. Même un partage, à la limite, ça peut devenir rapidement abstrait. Ouais. Mais un message, quelqu'un qui t'aborde pour te parler, pour continuer la conversation, que ce soit dans un message Facebook ou en personne, ça a autant de valeur au final, tu sais. Puis, fait que, je voulais juste relancer un petit peu les fleurs. Ouais. Ça peut aider la poussière à retomber plus vite et pour que tu prennes les fleurs.
Non, mais
c'était vraiment cool pour ça.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens que pour moi, les statistiques, c'est pas tellement important. C'est vraiment ça, les commentaires que j'ai reçus de la part des cinéastes et des spectateurs. Ça m'a beaucoup touché. Des gens qui étaient ailleurs du Québec aussi qui m'ont dit « Ah, j'ai vu les films, c'était cool. »
Ou genre en région au Québec, mais vraiment éloigné de Montréal, où il n'y a pas de festival de films.
Ouais,
c'est super plate parce que les gens n'ont pas accès à ces films-là.
Sherbrooke, Magog.
Hey, c'est pas, tu vas te faire pitié. Ça, tu vas te faire pitié des roches. Moi, je suis juste à côté de toi, je peux te pogner les cuisses.
Mais je serais curieux, c'est quoi les cinémas qu'il y a? Là, il y a la maison du cinéma à côté qui a l'air vraiment
bien. À Sherbrooke, il y a comme le meilleur cinéma au monde qui s'appelle la maison du cinéma. C'est un indépendant de 16 salles. C'est je pense que c'est le plus gros indépendant au Canada. À l'époque, en tout cas, c'est ça qu'ils disaient. D'après moi, c'est resté pareil. T'sais, les indépendants à Montréal, c'est le Beaubien puis le Parc. Le Beaubien, il y a 6 salles, 5 ou 6. Puis le Parc, il y a 3 salles. Mm-hmm. Cette maison de cinéma a 16 salles, là, c'est malade. Puis cinéma d'auteur, des films en anglais, français. Là aussi, ils ont les opéras puis ces trucs-là. Il y a vraiment une belle programmation. Mm-hmm. Il y a du cinéma plus commercial aussi, mais il y a comme la bonne balance des deux. Puis il y a toujours des films en langue originale. Moi, c'est mon cinéma préféré, point. Là, genre, chaque fois que je descends à Sherbrooke, je vais voir un film là, puis...
Puis y a-t-il d'autres cinémas ici?
Il y a un cinéma qui s'appelle Le Galaxy. Ça, c'est un cinéplex.
Cool. Puis là, j'en sais, en tant que Vicky, il y a le Festival des cinémas du monde qui a lieu ici aussi.
Oui, le Festival des cinémas du monde.
C'est quelle période?
C'est pas mal tout autour de Pâques.
C'est du 4 au 9 avril cette année.
Okay. Du 4 au 9 avril.
On pourrait essayer de monter à Sherbrooke pour voir des films ici.
Ça pourrait être bon.
On ira voir la programmation. Super. Donc, ça, c'était nos bilans personnels. Mais là, on va parler de cinéma parce qu'on est là pour ça. Je vous ai envoyé, les gars, une couple de questions à l'avance pour savoir un peu, pour diriger la conversation. Parce qu'on ne fera pas de top aujourd'hui, mais on va plutôt lancer des pistes de questions un peu sur les films qui nous ont marqués. Puis premièrement, dans le fond, on va parler de
cinéma québécois. On fera pas de top, mais mon top 2, il bougera pas. C'est genre, c'est plus j'y pense, puis plus ces mais deux films-là sont miraculeux. Ouais. Ouais, La La Land, on verra. Mais j'ai vu deux films miraculeux cette année, donc juste ça, je pense que ça sauve une année cinéma qui, je peux-tu le dire, j'ai été un peu déçu de la QV 2016.
Ah, pour vrai?
Aussi étrange, ça peut se sonner, parce que, tu sais, c'est super bizarre de dire ça. Parce que, tu sais, des films, je veux dire, c'est peut-être que j'ai mal cherché, que j'ai mal trouvé, que j'ai manqué de temps.
Mais t'as eu des déceptions que, moi, pour moi, c'est vraiment des,
ben, peut-être, des grands films je sais vraiment, pas, mais je pense que peut-être qu'il faut que je me renvoie une balle ou que je me regarde dans le miroir en disant un énoncé comme ça. Parce que, tu sais, t'es
même
qui pour
Olivier
prétendre?
Même Bouchard, qui est genre le gars qui haït tout. Oui. Je dis ça de même, là. Non, mais... Il est très difficile, là. Mm. Puis cette année, il a dit que son top, il y avait de la misère à le faire tellement il y avait de bons films.
Tellement il y avait de bons films. Moi, je t'avoue que c'est l'inverse. Bon, les films en queue de liste de mon top 10 sont des films que jamais j'aurais imaginé que ces films-là pourraient se retrouver dans un bilan de fin d'année. Mm. Donc, vivement, le rattrapage gourmand de la dernière semaine et demie de décembre.
Moi, c'est
un peu plate à dire, hein, de même, mais je pourrais être bien honnête, là. Il y a peut-être comme un gros... Peut-être 5 films qui m'ont vraiment, vraiment fait triper cette année. C'est dommage, hein? Bon. Ouais. Donc, excusez-moi.
OK, c'était notre point de vue.
De downer la conversation.
C'est un épisode avec super drame, avec super le fun. On va commencer avec le cinéma québécois.
Ouais. Ah, ben ça, j'en ai vu un génial, par contre. Okay. Dans les 10-5 films que je pourrais, tu sais, défendre bec et ongles, il y en
super.
A un québécois.
Ben, vas-y.
Ceux qui font les révolutions. Génial, ça, c'est génial. Ceux qui font la révolution à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau.
Ah, bravo.
De Mathieu Denis et Simon Lavoie, qui avait fait Laurency. Mathieu Denis avait réalisé Corbeau il y a quelques années aussi. Mais ça, c'est complètement sur une autre planète, un autre niveau complètement. Le film sort, il est distribué par K-Film, il sort en février 2017. Le film avait gagné meilleur long métrage canadien au TIFF, là, t'sais, fait que je suis quand même pas tout seul dans mes bobettes à dire que c'est bon. Puis il avait fait Salle Comble à l'Impérial, il y avait une projection au FNC. Puis vraiment, c'était un événement. C'est un film de 3h15 avec un interlude. Il y a un intermission avec du black metal, comme dans le film. Je sais pas, comme il y a une intro orchestrale sur fond noir pendant peut-être 4 minutes. T'sais, tout dans ce film-là.
Ils ont écrit le film pour toi. Là.
Non, mais c'est que c'est du pompeux qui ça passe ou ça casse. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté la salle. Ouais. Donc ça a cassé pour beaucoup de gens. Et moi, vraiment, j'ai été un sceptique confondu parce que j'étais sceptique. La bande-annonce me laissait sceptique. Le sujet du film, le printemps étudiant, mais un peu l'aftermath là, du printemps étudiant, puis comment que cette ferveur-là est comme devenue comme une certaine mollesse. Puis finalement, c'est un bilan très drabe d'une société québécoise.
Qu'est-ce que ça a changé au final? Puis...
Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, je trouvais que la proposition était d'un côté très lourde et d'un autre côté, même que je questionnais le cinéaste. En voulant dire, t'es qui toi pour faire un film sur le printemps érable, t'sais? Mm-hmm. T'étais-tu là? Comme... Mais finalement, c'est que c'est un film qui réfléchit sur les événements et c'est, j'oserais dire, ben, en fait, c'est carrément, moi je trouve que c'est un grand, grand film. Vraiment, tout pays, tout sujet confondu. Donc ça, c'en est un qui m'a brassé dans tous les sens.
Super. Ouais. Puis toi, Rémi, l'année québécoise?
Ben moi, à l'heure, je trouve qu'on a une belle année dans un sens parce que...
Au Québec?
Parce que toutes les en fait les très bons films, c'était des petits films avec des propositions très très out there là, des trucs qui habituellement on n'a pas. J'avais listé Écarté, Prank, Désert, Feuilles mortes. Moi, ça c'est les films que j'ai vus cette année, puis c'est tous des films
au niveau de la diversité, c'est
des films
bon
à très petit budget, mais des films vraiment avec des propositions complètement originales. Il y en a beaucoup que j'ai pas vus là. Moi j'ai noté Un paradis pour tous, Boris en Béatrice, des films que j'aurais aimé rattraper, pas eu le temps avant la fin de l'année.
Paradis pour tous, là, c'est le fun.
Ouais, mais...
C'est le fun sur papier,
curieux,
là. Mais ouais.
Vous aviez fait une bonne critique aussi de... Comment ça s'appelle déjà?
Mon ami Dino?
Non, pas celui-là. C'est un truc de cannabis, là. C'était quoi déjà?
Ah, les mauvaises herbes. C'est superbe, ce film-là. Moi, vraiment, je le conseille énormément. C'est juste, ça se prend pas la tête. Puis, une belle révélation. Hein. Puis, en fait, elle a fait un doublé, elle. Emmanuel Lucien Martin. Excusez-moi, mon Dieu, j'ai pas les notes.
On a des ordis pour aller chercher pour tricher.
Mais non, on se prépare, puis on les sait par cœur, Rémi. On va pas voir sur Google au fur et à mesure qu'on parle.
Non, mais excusez-moi, vraiment, le nom m'échappe. Puis, c'est vraiment dommage parce que moi, c'était une immense révélation. C'était la comédienne, donc, qui avait le rôle ben, féminin principal dans Les Mauvaises Herbes et dans ceux qui font les révolutions. Superbe actrice. Mais non, juste Les Mauvaises Herbes, pour vrai, c'est comme ça, ça se prend pas ouais, la tête, mais
ça,
bordel,
ça,
ouais, ça marche au bout.
Puis tu sais, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu de gros films habituellement au Québec. Il y a eu
ouais,
un gros film. Puis les deux gros, gros films cette année, c'est des suites de films d'il y a 10 ans. C'est Trois petits cochons 2 puis Nitro Rush.
Ouais.
Deux films qu'ils ont décidé de faire des ben, suites, genre ben une 10 ans plus tard. La chasse galerie, ouais, un gros
ça,
film, ça.
Ça aussi n'a pas marché.
Ça, j'ai manqué
non.
ça un petit peu. J'ai manqué le canot.
Ben, une 54. Qu'est-ce que tu as dit?
Le public est en feu.
Ouais, il a manqué ça. Le canot.
T'as manqué le bla... Oh, shit.
Puis moi, je peux te dire, autrement que cinéma, là,
ouais.
Le truc le plus magique au Québec cette année, c'est Série Noire saison 2. Mm. Voilà, c'est dit, drop the mic. Série Noire, là, c'est comme... C'est tellement une des meilleures affaires qui a été faite au Québec depuis longtemps.
Est-ce qu'il y en a dans le public qui écoute ça, Série Noire? Non? Oui? Oui, bah.
Mais saison 2, c'est comme... C'est... Mais c'est parce qu'en plus, la saison 2, c'est une saison fuck you. C'est sûr qu'on n'est pas renouvelé. Mm-hmm. Fait qu'on va faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire là-dedans. C'est,
ça, c'est
complètement, c'est complètement déjanté. Mm-hmm. C'est, ils se sont permis des trucs, là, genre que, ben, que tu verrais pas au cinéma, mais que tu verrais surtout pas à la télé. Là. Mm-hmm. Ils sont allés loin là, dans leur proposition. Puis Série Noire, pour moi, c'est vraiment une des meilleures affaires qui a été faite au Québec. Mm-hmm. La saison 1 et 2, là, moi, c'est ouais, ça a été un gros...
Puis est-ce que la dernière épisode est comme résolu
ouais,
l'affaire?
Ouais, ben, ou... rap, mais en même ouais. temps, c'est comme c'est tellement rendu loin
ça devient,
que
chaotique.
C'est un chaos ouais, contrôlé
c'est
ça, là.
C'est un peu comme à la Twin Peaks là, ou comme c'est une espèce de fin ouverte puis finalement t'es comme.
Ben ça rappe quand même, ils ferment quand même le sujet, mais c'est que les personnages sont là puis tu sais ils pourraient avoir d'autres choses, mais c'est que. En même temps, la saison finissait, puis tu disais, bon, il y aura. Tu sais, c'était quasiment sûr qu'il n'allait pas avoir de saison 2. Puis la saison 2, en fait, c'est à propos. En fait, il allait ne pas être renouvelé parce qu'il n'y avait pas eu les codes d'écoute à la télé.
Ouais, ouais, c'est
puis
ça. C'est complètement arriéré de ne pas tenir compte des
puis
la,
des puis en fait. Puis en fait. Non, mais c'est qu'en fait, le public est au rendez-vous sur le web. Puis ce truc-là a influencé la saison 2. Non, mais je vais juste te dire de même. Non, mais je vais aucun punch. Là. Mais ça reste que la saison 2, tout est méta. Fait que c'est comme... C'est juste... La série dans la série est à propos de la série dans la vraie vie. C'est comme... C'est malade, là. C'est vraiment... Moi, je le recommande, là. C'est important. C'est important.
Mais c'est drôle, c'est un peu comme... tu dis, genre, ils sont dit « fuck you » de façon... C'est un peu comme l'attitude qu'avait Ricky Gervais, genre, au Golden Globe. Tu sais, la première fois, il est comme « ils me réinviteront jamais.
Ouais, » ouais,
puis
ouais,
après,
ouais.
c'est l'invité, il est comme « what? » Puis là, il renchérit, là. Il fait des jokes encore plus crades. Ouais, je sais pas s'il y en a qui ont écouté un peu ses monologues, là. Ils étaient malades. Là. Quand on est, ils n'ont pas eu le choix. On peut plus le ramener. C'est un punk, aussi. Voyons donc.
Bref, Nitro Rush.
Nitro Rush. Hey, mais moi, j'ai vraiment tout manqué, ces gros films-là.
Mais attends un peu, on a quand même passé sous silence un film qui fonctionnait à côté au Québec quand même, à une 54, Diane England, que j'ai vu, que je ne peux pas vraiment conseiller à personne. Mais qu'un film comme ça trouve un certain box-office, moi, je préfère de loin qu'un film comme une 54, qui parle quand même d'intimidation, qui peut quand même si c'est un peu bête, au final, comme film, ça peut ouvrir un semblant de dialogue.
Ouais.
Puis, tu sais, Ian England, là, il devient un peu un thérapeute improvisé là, à travers un film comme ça. Tu sais, il le dit beaucoup et c'est son cheval de bataille pour défendre le film, j'ai l'impression, mais qu'il y a énormément de gens qui lui écrivent en privé, qui lui relatent, tu sais, des expériences d'intimidation et tout ça. Donc, sur papier, même si, bon, le film, comme... Bon,
mais
ça ne
devrait pas être le thème
rien.
Du film qui fait que c'est
je
plus
suis d'accord,
louable,
je t'sais. Suis d'accord, je suis d'accord, mais disons que, en théorie, sur papier, je préfère de loin qu'un film comme ça se retrouve, tu sais, comme un champion du box-office que Les Trois petits cochons 2, par exemple.
Ouais, ouais.
Pour moi, déjà, je trouve que c'est un pas dans une direction qui
mais
un
des bonnes comédies populaires, tu sais, je sais que...
Non, mais il y en a, ben
ouais,
oui.
Y a, mais cette année, il n'y en a pas eu vraiment.
Mais t'sais. Comme Les Mauvaises Herbes.
Ben, je l'ai pas vu. Ouais,
mais c'est ça, mais c'est ça.
Nitro Rush, j'aurais aimé ça le voir quand même. Je le dis, là, mais... Genre, je vais revenir dessus tout le podcast, je pense, mais je m'en veux de pas l'avoir vu. J'aimerais vraiment ça.
Si on a une leçon à retenir de notre passage
c'est qu'on,
à Sherbrooke.
On aurait dû voir Nitro.
Fait que le bilan, regret de 2016. Non, mais ben c'est ça. Mais sinon, au Québec. Non, mais c'est audacieux de parler de séries télé. Puis Rémi, j'aimerais juste ça te remettre sur le nez quelque chose. Il y a un film qui s'appelle O.J. Made in America.
Ben oui, je sais. Il me tague en plus.
Il se retrouve dans la shortlist et des Oscars. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse un peu là-dessus parce que de plus en plus, les cartes se brouillent entre mini-séries télé, séries télé. Ouais. Les films, des fois, c'est des mini-séries qui sortent en salle. Ils font des bilans. Tu sais, il y a Petit Quinquin qui était le numéro un des films du Cahier du cinéma l'année passée ou il y a deux ans. Excusez, je peux me tromper. Mais tu sais, c'était une mini-série. Carlos avait été présenté à Cannes. J'ai vraiment l'impression que ce... Moi, j'avais mis dans ma liste personnelle. Écoute, je ne suis pas une personnalité influente, là. Mais tu sais, je veux dire, j'avais mis Mildred Pierce, je pense, numéro 2 de l'année de Todd Haynes, l'année où cette mini-série-là était sortie.
De HBO,
j'avais... transgresser la règle pour aucune raison. Mais juste pour dire que j'ai l'impression que cette ligne-là, elle devient excessivement embrouillée et mince. Puis encore une fois, cette année, je pense que O.J. a de l'air de le... Mais moi, je suis vraiment excité de voir ce film-là.
Moi, j'ai vraiment de le voir.
C'est vrai. Moi, c'est ça. Puis bon, par la force des choses, cette année, j'ai vraiment pas écouté beaucoup de films, notamment à cause du lancement de mon festival. Mais
Du cinéma québécois?
Hein?
À part mon ami Dino.
Du cinéma québécois, j'en ai vu pas mal. Moi, bon, pour parler d'abord du cinéma québécois, pour finir là-dessus, moi, les films que j'ai vus m'ont pas mal tous déçu. J'ai beaucoup aimé Désert. J'ai vraiment beaucoup aimé Désert, que je pense pas que je joue à Sherbrooke. C'est un film expérimental qui se passe dans le désert.
Qui est présentement à la Cinémathèque.
Qui est présentement à la Cinémathèque.
Moi, je pense que c'est la seule distribution en salle qu'il y a eu.
Ouais. Je sais pas si à un moment donné, il va être disponible peut-être sur iTunes ou des trucs comme ça pour que les gens puissent le voir. Mais, ça, c'est vraiment un petit film là, genre d'amoureux des.
Un peu comme
cinéma,
quand tu avais beaucoup défendu puis... Transatlantique.
Oui, c'est ça, ce genre de. C'est ça, c'est exactement ce genre de petit film-là. Puis c'est pas parce que le film est petit que je le défends, c'est vraiment parce que je l'ai aimé.
Non, parce que, ben oui.
Puis je trouve qu'il est très bien fait, tout ça. Bon, on avait eu un débat au niveau du scénario, tout ça, mais tu sais, c'est... le film n'est pas sans faute nécessairement. Mais sinon, ce que j'ai vu, bon, le Xavier Dolan, Juste la fin du monde, je l'ai bien aimé, plus que vous, je pense.
Ah, c'est vrai, j'ai vu ça. Hey, tu l'as pas aimé, toi? J'ai jamais.
Non,
moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Là.
Est-ce qu'on en a parlé au podcast? Ben, je pense qu'on en a juste parlé
en fait, on a parlé, mais toi, tu l'avais pas vu encore.
Oui, c'est ça.
Puis moi, j'avais jamais su, en fait, qu'est-ce que t'en as pensé.
Parce que Rémi, non plus, il y a vraiment.
Moi, j'ai vraiment pas aimé. Je suis sorti fâché de la. J'étais à la première.
Mais sortir fâché, je crois que c'est pas. Faut pas baser.
Mais fâché, mais j'étais juste.
Non, mais je sais, mais faut pas baser juste nos critiques négatif sur ce côté-là, parce que je crois que c'est un film maîtrisé. C'est un film qui utilise le malaise, tu sais, et la lourdeur de son propre... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Le fait que ce soit pas agréable fait partie de l'expérience voulue.
Oui, certain.
Donc, faut quand même faire la part des choses, de se dire, c'est pas parce qu'il y a un malaise ou que je suis... Non, évidemment, je sais que c'est pas ça que tu es en train de dire, mais je dis juste... C'est pas parce que le film te fait ressentir des émotions déplaisantes qu'il pour moi, qui passe à côté de la traque. C'est pour plusieurs autres raisons que je pense qu'on... En tout cas, si on veut un peu enchaîner, je les étalerai pas nécessairement là. Mais disons, oui, pour moi, surtout après Mommy, qui était... Avec Lawrence Anyways, c'était... C'est deux films que, je veux dire, c'est des preuves, ce sont des testaments, c'est pas des hasards, là. Je veux dire, Mommy, c'est un 2h30, Lawrence Anyways, je veux dire, l'opulence, tu sais, c'est pas des hasards que ces films-là soient des grands, tu sais, c'est des
c'est
gros
ça, puis après ça, enchaînant juste pour la fin du monde, c'est que moi, j'ai l'impression que Xavier Dolan, il fait un film sur deux pour lui, puis comme un film vraiment... T'sais, un film sur deux que c'est vraiment personnel, ce projet qu'il tient à cœur, il y a des trucs à dire, il met toute son énergie. Puis l'autre d'après, c'est un peu comme, bon, ben je peux me permettre d'amener genre Léa Seydoux à Montréal, puis Vincent Cassel.
Dans le plus gros miscast que j'ai vu à l'écran
en
2016.
Le casting, c'est mon plus gros problème
Je veux dire,
film,
Léa Seydoux en jeune sœur qui écoute du Blink 182 dans le fond de sa chambre, là, en fumant du weed. Là,
ah, mais elle vient de la rue, elle a dit, là.
Ah, ouais, écoute, elle est à l'école de la vie. Non, non, mais je veux
non,
pas
mais
avoir,
moi, Marion Cotillard, je trouve qu'elle joue.
Mais écoute, je veux pas sonner mauvais. Fois, mais vraiment, moi, ce film-là, il implose sous son star power complètement. Je veux dire, c'est un gros simulacre, c'est rien de vrai. Puis par vrai, il y a plein de films stylisés qui sonnent vrais. C'est pas vrai en voulant dire vrai dans le sens réaliste. Ouais. C'est un cinéaste maniéré, c'est génial. C'est comme Keep Doing What You're Doing, Xavier, là, c'est bien correct. Mais ce film-là a franchi une limite pour moi, là. Complètement. Il implose. Il
je suis content que tu sois de mon bord. Je pensais que j'étais tout seul dans la vie.
Moi, j'ai bien aimé, mais c'est ça. C'est une déception par rapport à ce qu'on attend. J'attends pas la même chose. Tu sais, j'ai pas les mêmes attentes envers Xavier Dolan qu'envers, mettons, Jimmy LaRouche.
Mais encore là, encore une fois, c'est un testament d'à quel point Xavier Dolan, on attend son prochain mot. C'est un cinéaste vibrant, intéressant, tu sais, c'est, je veux dire, c'est Tool, c'est le maître du jeu, puis si on attend, c'est son prochain.
Et son prochain, c'est ça, comme je dis, pour moi, c'est un sur deux, puis son prochain, tu vois, c'est un projet qui fait des années qu'il travaille dessus, il en parle depuis longtemps, son film américain, The Life and Death of John F. Donovan. Donc, ça, j'ai hâte de le voir, puis j'ai l'impression que ça va être plus, il va y avoir plus de lui, tu sais, ça va être plus comme personnel, ça va être plus engagé, donc...
L'avenir nous le dira.
J'ai bien hâte de voir 2017, ça, donc c'est ça. Puis sinon, il y a tous les films que j'ai manqués, évidemment, donc je ne me prononcerai pas. Mais là, donc, on parlait de cinéma québécois, on a parlé, c'est ça, j'avais d'autres questions. Bon, toi, tu parlais justement, Pascal, du fait que... tu sais, les paradigmes changent, qu'est-ce que la série, qu'est-ce que la télé... puis tu sais, je pense vraiment que... Netflix a vraiment beaucoup comme joué dans la balance parce que le spectateur moyen maintenant, les personnes moyennes, le grand public là, tu sais, passe de plus en plus de temps sur Netflix et donc moins dans les salles. Tu sais, tu peux pas te dédoubler le temps. C'est pas comme Netflix est arrivé puis il a piétiné sur rien d'autre. Netflix est arrivé et il a piétiné sur d'autres choses, sur ton temps que tu passais à aller voir un concert ou à aller au cinéma, tout ça. Et maintenant, c'est qu'il... Puis en plus, c'est qu'avant, c'était seulement un distributeur, un catalogue. Maintenant, c'est une maison de production, c'est un studio au même titre que Sony, que Warner Brothers, tout ça. Donc, sachant maintenant qu'ils font du contenu original, ils en font de plus en plus, là, comme ça n'arrête plus. Là. Au début, tu avais comme, OK, on fait House of Cards. Là, on fait Orange is the New Black. Là, maintenant, c'est chaque mois, il y a des
nouvelles. Mais Mme Sandler qui a son contrat de 5 longs métrages.
Et là, oui, ils se sont...
Mais ça, est-ce qu'on s'en réjouit ou est-ce que ça. Il y a des cartons jaunes à ça?
Bien, il y a des cartons. Ben... Il y a des failles, mais en même temps, c'est des... pour nous, là, mais je dis à Mme Sandler, il y a son
public. Non, je parle pas d'Adam Sandler. Je parle de Netflix. Mettons qu'on est dans le mastodonte Netflix.
Bien, moi, je ne suis pas contre en tant que tel parce que, dans le fond.
Mais non, mais est-ce qu'on est contre? Je veux dire, je pense pas qu'on peut être. Comme qu'on peut être contre Netflix.
Les studios de cinéma sont là depuis 100 ans. Netflix apporte peut-être une certaine liberté à certains cinéastes. Ouais. Puis, mais bon, je trouve que là où ils sont beaucoup imposés en télévision, ils n'arrivent vraiment pas encore à s'imposer en cinéma, en film. Puis les films originaux de Netflix, il y en a vraiment peu qui marchent.
Moi, j'ai entendu dire, c'était le film de l'année passée, là, qui est un peu dans le style de Rebelle avec les enfants soldats. Il paraît
Beast of Nation.
Ça, c'est paraît que c'est super bon.
C'est comme un sur genre 100 qu'ils ont fait depuis quelques années.
Ouais, moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu beaucoup de séries. J'ai vu Amanda Knox cette année, qui est un long métrage.
C'est un documentaire.
Ouais.
Mais ils ont des très bons documentaires, mais en fiction, je pense qu'ils ne sont pas encore rendus là.
Mais ils ont pris des propositions vraiment originales au niveau des séries. Ils parlaient de Stranger Things, qu'aucun studio voulait prendre parce que les protagonistes étaient des enfants. Puis là, tu te dis, tu sais, c'est malade, les studios voulaient changer. Puis là, Netflix font, bon, on va le faire, on va y aller à fond, on va prendre leur proposition. Puis finalement, ben, Stranger Things, c'est une des plus grosses séries de cette année. Tout le monde a regardé ça, c'est comme... Puis ils rachètent les vieilles séries. J'ai regardé beaucoup, en fait, cette année. Je pensais pas que j'en avais vu autant. Puis j'ai regardé le bilan, puis finalement, j'ai regardé full de séries sur Netflix. J'ai regardé plus de séries que d'habitude. J'ai vu Love, j'ai vu Black Mirror, la nouvelle saison, Bloodline, F is for Family, Master of None. C'est toutes des séries que je me faisais dire, regarde-les, puis je finis par, je pop un épisode à ma année. Je me dis, je ne regarderai pas un film ce soir. Puis là, tu rentres dans le loop de, OK, t'en regardes un, fait que là, tu commences à t'enchaînes. Juste un autre, juste un petit dernier.
Fait que quand les gens te proposent des choses, tu les écoutes assez rapidement.
Oui, cette année, dans mon bilan annuel, j'aurais dû mettre ça dans mes expériences personnelles. J'ai vu Old Boy. Fait que ça, c'est réglé. Ça, c'est
le running gag du podcast depuis infinitant.
Depuis le premier épisode, je pense.
Rémi a vu Old
Boy. J'avais pas vu Old Boy, puis je l'ai vu cette année parce que Paul...
Il a fallu que je lui achète le Blu-ray puis que je le chépe à sa maison.
Il m'a posté le Blu-ray d'Old Boy. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Je me demandais c'était quoi.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Fait que je l'ai regardé.
Fait que là, dans 5 ans, tu vas avoir vu O.J. Made in America,
c'est ça? Oui, c'est ça, exactement.
Okay. J'achèterai le Blu-ray. Puis...
mais quand on continue de t'attirer sur Netflix, parce que moi, je suis bien partagé.
Mais toi, tu regardes pas beaucoup de séries de base.
Je regarde pas beaucoup de séries de base, mais c'est parce que je suis comme comblé. Tu sais, je veux dire, je suis abonné à Mubi, Tu sais, je regarde encore des DVD, je vais encore beaucoup en salle. Tu sais, c'est que finalement, on dirait que... Je regarde des films tout le temps. Tu sais, comme j'ai pas besoin de Netflix. Puis c'est ce qui se passe avec Netflix aussi. C'est un peu la même chose qui se passe en musique. Tu sais, quand t'es sur Apple Music ou tout ça, quand t'as infini contenu, c'est un peu mon cheval de bataille cette année. Je sais pas, ça fait quelques fois que j'en parle, mais tu ne commites pas de la même façon au contenu. Parce que tu peux le jeter à mi. T'écoutes une chanson, t'écoutes un bout de chanson, t'es comme, OK, ben, je vais écouter l'autre artiste recommandé par tel. Ça devient tentaculaire, puis finalement, tu t'es pas assis avec aucun contenu. Puis tu sais, c'est trop facile. Tu sais, j'en viens à l'exemple de Under the Skin, une étoile sur Netflix. Tu sais, je veux dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, ils ont fait, un film de sci-fi avec Scarlett Johansson. personne, cool. Puis après 15 minutes, ils ont juste fait genre, c'est trop bizarre, c'est pas pour moi. Et tu bail out. Et après ça, c'est comme, tu mets une étoile, puis t'en parles plus jamais de ta vie.
Ça, c'est une expérience de.
Mais est-ce que ces gens-là seraient allés le voir au cinéma?
Ben, c'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que ces gens-là seraient allés le voir au cinéma?
C'est juste une plateforme de.
Puis tu me diras, si il y a au moins il y a une scène dans les 15 minutes avant qu'ils quittent, tu sais, peut-être la salle de leur salon, là. Mais tu sais, comme, si ça peut les challenger. Bien, peut-être dans un sens que c'est bien. Donc, je le sais pas, mais
c'est comment toi, tu vas le consommer, tu sais. Pour moi, Netflix, c'est une autre expérience. Oui. Toutes les séries que j'ai vues sur Netflix, c'était vraiment un autre truc que je consommais autre que du cinéma parce que j'en regarde 250 films par année. J'en regarde quand même pas mal, mais les séries, c'est autre chose. Là. C'est comme c'est un petit 40 minutes, des fois des 20 minutes, là, tu peux popper ça en mangeant. Puis ça finit que je pensais pas en avoir vu autant, mais au cumulatif, j'en ai regardé beaucoup parce que j'y regarde comme ça, par-ci, par-là.
Mais je sonne-tu comme un vieux con puriste de me dire, j'aime pas ça regarder un truc en mangeant, moi. Tu sais, j'aime ça.
Ouais, mais tu choisis ton stock. Je veux dire, tu fais pas comme.
En même temps, depuis 100 ans, les gens mangent du popcorn au cinéma, des nachos, des hot dogs.
C'est un autre point de vue.
Non, mais il n'y a pas de fin à ce débat-là. Non, juste que de commencer. Puis c'est parce qu'on adule une plateforme. Tu sais, c'est comme Netflix est devenu. Tu sais, Netflix and Chill. Tu sais, c'est devenu. C'est, la plateforme a commencé à bouffer le contenu dans l'imaginaire collectif. Puis ça, je trouve ça dangereux. Tu comprends un peu ce que je veux dire?
Ouais.
C'est comme Netflix est devenu la chose qu'on vénère. Mais Netflix, c'est fucking rien sans le contenu de qualité. Tu sais. Mm-hmm.
Fait que ben, comme. Netflix produit vraiment du contenu de qualité.
Mais quand on parle de Netflix, on parle du catalogue. Oui, on parle pas nécessairement de... Mon point, c'est juste, je voulais juste, encore une fois, faire le rabat-joie. Chris, c'est moi le grumpy old fart. Mais questionnons Netflix et continuons de questionner Netflix. Il peut pas juste...
Mais
c'est juste une... Non, mais c'est cool, on
sent. Okay. Bon, écoute, Netflix ne deviendra pas commanditaire de point de vue, c'est sûr. On va changer de sujet. OK. Là, ce débat vraiment important. Ça va peut-être être un peu théorique, là, mais on va peut-être vulgariser un peu. Mais c'est quoi le meilleur film de super-héros cette année?
Hey! Quand j'ai vu la question... Mais quand j'ai vu la question, je me suis dit... Ah, si, je suis tanné les films de super-héros. Puis à chaque fois que j'en vois un, je me dis, je suis tellement tanné de voir des films de super-héros. C'est rien que ça, ces temps-ci. Puis je regarde la liste, j'en ai vu 4 sur 6 cette année. Ouais. C'est genre, je suis allé en voir 4 en salle. Je fais partie du problème. Je chiale à tous les films de super-héros, mais j'y vais quand même. C'est tout le temps quelqu'un qui t'invite. Tu fais, je vais y aller. Puis finalement, tu finis au bout du compte que, tu sais, j'ai vu.
Moi, autant je suis cinéphile, là, autant. Puis c'est souvent moi qui vois.
Ouais, toi, t'aimes vraiment ça, tu les crains.
Dire, hey, les gars, jeudi à minuit, est-ce qu'on va au IMAX? Voir,
et moi de répondre
Avengers, voir le truc. Non, je dirais des choses. On est allé voir The Dark Knight Rises, gros écran. Non, Man of Steel aussi, on est allé voir ensemble.
Mais moi, ma réponse honnête à ça, parce que je veux
couper. Toi, t'en as pas vu en plus, je pense.
Non, un peu, mais
un peu.
Vas-y donc, moi,
t'as. Doctor Strange, Civil War, Suicide Squad, Deadpool, Batman, puis X-Men.
T'en ai pas vu. C'est dommage, c'est triste.
Non, c'est pas triste, c'est pas...
Non, mais c'est un bilan bizarre, parce que d'habitude, j'en vois au moins... J'en vois quelques-uns. Cette année, Paul et moi, par contre, on a regardé des Marvel qu'on n'avait pas vus. On a, par exemple, vu le Winter Soldier, puis sous ton conseil.
Il est pas pire.
Rattrapé en plus beaucoup cette année, parce que j'avais... Il y a quelqu'un qui m'avait invité à voir Civil War, puis j'avais fait un top... un top, là, mais dans un épisode de... j'étais allé chercher les films que j'avais pas vus. Je m'étais tapé Thor 1, Thor 2, je les avais pas vus. J'ai rattrapé plein d'affaires. Ant-Man, je l'avais pas vu. Mais pourquoi
se fait un cinéma, devoir de les voir?
Je sais pas.
Faudrait que je les regarde. Non, c'est dans tu peux ne pas... Tu sais, ta vie pourrait...
Je check en plus, puis c'est tous des films que, finalement, quelqu'un m'a invité, puis j'ai fini par aller le voir, tu sais. C'est pas des affaires que je me suis dit, genre... Parce que c'est jamais important, puis je vois la bande. Je fais, j'irai pas, là, celui-là, j'irai pas. Mais tu sais, j'ai skippé Batman contre Superman et X-Men, fait que j'en ai vu 4.
Mais Marvel, ce qu'ils font de bien, en fait, c'est que tous les acteurs, c'est les mêmes, ils créent vraiment, c'est comme un immense univers de séries télé, finalement. C'est
ça fidélise effectivement son public.
Donc tu dis, toi, t'as dit, j'ai pas vu, je me suis invité voir Civil War, j'avais pas vu l'autre d'avant, peut-être que je les vois.
Oui.
Puis Marvel, c'est qui? C'est Disney, parce que Disney, ils ont tout le monde.
Disney gagne tout le temps.
Mais c'est ça.
Mais tu vois, cette année, il y en a deux qui sont pas si pires quand même. Doctor Strange, c'est vraiment. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, c'est un bon film popcorn. Puis Deadpool, qui est quand même cool. Ça marche, là. Je veux dire, c'est pas le plus grand film de tous les temps, là, mais c'est bien efficace. Là. Après ça, Suicide Squad, c'est une méga catastrophe.
Mais tu sais que, étrangement, c'est celui qui m'intéresse le plus.
Hey, man,
le phénomène culturel autour de Suicide Squad me fascine. Les histoires derrière Suicide Squad, comment le studio t'engage l'autre compagnie, le truc de vidéoclip.
Ah, mais ça, c'est un cas de Hobbit. Il faut qu'il sorte un making-of vraiment gros. Là.
Le cas de Suicide Squad, c'est le meilleur argument sur faire un film, c'est pas une démocratie, c'est une autocratie ou c'est du totalitarisme, je sais pas comment que c'est quoi, mais c'est clairement pas une démocratie. La preuve, Suicide Squad. C'est comme trop de test screening, trop de ci, trop de ça, ça va tuer le Edge, ça va tuer... Et ultimement, c'est ça. Ça abrutit quelque chose qui était à la base,
c'est
je crois, aussi, déjà ouais. un peu abruti.
C'est aussi qu'en tant que studio, on sent que les films de DC réagissent à
exactement.
Au succès de Marvel.
C'est vraiment un cas de la démocratie a perdu, là, tu sais. Puis ça me fascine, puis ça... En fait, de tous ceux que tu as nommés, même si c'est probablement le pire que tu as vu dans ta liste, c'est celui que c'est sûr et certain que probablement dans le temps des fêtes avec
moi, c'était mon film que j'attendais le plus de l'été. T'sais, on a fait un épisode où on parlait de l'été. Moi, je dis Suicide Squad, mais je pense que c'est lui peut-être qui va pouvoir faire changer les choses. J'étais super déçu. Il y a des affaires bonnes dans le film, mais.
Puis je dirais que l'autre affaire au niveau des films de super-héros, c'est que ça a influencé le cinéma at large, le cinéma divertissement. Ouais. Parce que j'ai vu Ghostbusters cette année. Qui a l'air d'un film de super-héros, au final, c'est construit comme les films de super-héros. Mm-hmm. C'est vraiment le même format. Puis en plus, ils voulaient créer un univers autour de Ghostbusters parce qu'ils voulaient gonfler ça, puis ils voulaient avoir le Ghostbusters Universe. Là. Je ne sais pas trop comment ils voulaient appeler
mais
ça.
Mais toi, tu n'avais pas...
Mais ça, puis hier, j'ai vu Fantastic Beasts, le film d'Harry Potter. Puis
J.K. Rowling,
C'est construit comme un film de super-héros.
J.K. Trolling.
Ouais, ouais. Puis moi, pour vrai, je vais le dire, là, il y a des gens qui vont aimer ça, puis c'est correct, mais moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis je trouve vraiment que ça a l'air d'un film de super-héros générique. Là. Puis il n'y a pas de super-héros dedans, mais c'est la façon que c'est construit, la façon qu'ils exploitent les méchants.
C'est quand même
c'est
des gens qui ont des pouvoirs, qui inventent des créatures magiques.
J'avais vraiment l'impression de regarder un Marvel. Ou
oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'Harry Potter a fasciné? T'sais, c'est le côté très terre-à-terre, finalement. T'sais, Harry Potter a fasciné beaucoup, quasiment, parce que c'est une c'est une affaire de dorm, là, que c'est une affaire de jeunes ensemble. C'est la camaraderie, la fraternité,
ton personnage principal, c'est avec lui que tu découvrais.
C'est ça, au lieu d'avoir tout craqué à 11 dans ta face.
C'était vraiment le festival du too much dans ta face.
Ça m'étonne comme pas, puis c'est une tendance qu'il faut un petit peu. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai pas encore vu Arrival, malheureusement, les deux, mais vous l'avez bien gros vanté, mais juste dire, tu sais, que ça faisait du bien quand vous disiez, par exemple, qu'enfin un film qui est Less is More, tu sais, de rappeler aux gens qu'un peu d'imagination, de pas tout donner, de pas tout montrer, mon Dieu, ça fait donc du bien, tu sais. Ça fait donc du bien, de temps en temps. Puis,
d'avoir des ellipses qui t'enlèvent le meilleur morceau.
Non, mais là, ça va, ça.
C'est un peu comme...
Ça les prend, ça.
Ouais.
Ça engage, ça.
Tu sais, comme Reservoir Dogs, tu sais. C'est un heist movie without the heist.
Hé, j'ai un film de super-héros que j'ai vu. Midnight Special, c'est presque... Ça compte presque.
Quand même, hein?
Ça
compte c'est vraiment presque. Bon, ça.
C'est super bon.
Moi, j'ai vraiment aimé ça.
Je me redonne le sourire.
C'est bizarre parce que là, maintenant, super-héros, c'est DC ou Marvel. On oublie qu'il y a comme...
On oublie qu'il y a comme un sous-genre possible.
Il y a quelque chose ailleurs.
Que maintenant, le cinéma indépendant va attraper cette tendance-là, pas de plus en plus. Mm-hmm. Puis Midnight Special, c'est un film intéressant à ce niveau-là.
Ouais.
Mais je suis surpris que tu n'as pas nommé Civil War là-dedans. Tu n'as pas aimé tant que ça. Moi, je trouve que c'est...
Ah, Civil War, j'ai vraiment pas aimé ça.
Ah, ouais. Moi, je trouve que c'est énormément supérieur. Oui. Je trouve que c'est supérieur à Deadpool. Puis. C'est quoi l'autre que tu as dit?
Doctor Strange,
je ne l'ai pas vu. Mais.
Civil War.
Ben, le problème de Deadpool, pour moi, c'est que ça se croit super intelligent parce que ça pointe les ficelles.
Ouais,
mais finalement,
ça tombe dans les mêmes pièges.
Oui. Puis, honnêtement, c'est juste que j'ai aimé ça, trouvé ça drôle, mais j'ai pas trouvé ça drôle. Là.
Bon,
Civil War, je regardais ma montre, j'ai hâte que ça finisse. Je trouve qu'il y a une bonne scène, là. Il y a une bonne scène de bataille, mais c'est une scène de bataille. Là. C'est vraiment ça, là. C'est une bonne scène d'action à travers un film.
Vous me donnez envie.
Non, c'est ça. Mais c'est parce que je trouve que tout le reste du film, c'est un morceau de puzzle dans le gros univers. Puis comme là, il y a plein de personnages, puis il y a plein de lignes narratives. C'est pas comme. C'est pas un film, c'est un épisode de Marvel. Ouais.
C'est un gros trailer pour le prochain film.
Ouais, parce que là, ils pluguent encore Thanos, puis là, ils veulent que tu checkes le prochain Avengers dans deux ans.
Tu parles de tout le projet en tant que tel, mais le film lui-même, parce que c'est drôle, cette année, on a eu vraiment comme Batman versus Superman, puis on a eu, dans le fond, Civil War.
C'est pas Avengers,
c'est vraiment comme l'un contre l'autre. Et. Lui, il faisait vraiment mieux que Batman vs Superman parce que vraiment, tu comprenais d'où il venait, puis les acteurs sont bons, ça fait plusieurs films qui font leurs personnages. Et tu avais vraiment deux positions idéologiques où tu n'avais pas nécessairement de gagnant et de perdant.
Ouais, ouais.
C'est comme les deux défendaient. Fait que ça, c'était bien. T'sais. Puis en plus, il y avait. Bon, c'est pas que c'est révolutionnaire, mais tu avais vraiment un parallèle avec. Dans le fond, c'est comme la position des États-Unis versus l'ONU. Puis tu avais vraiment des parallèles à faire avec comme la société actuelle. Puis. Encore une fois, c'est très...
Ce ne sera jamais super, super dit, mais c'est le fun que ce soit là.
Oui, ouais, c'est le fun que
comme,
ce soit là.
Le premier Iron Man, je reviens à lui, moi, c'était comme, on l'espérait comme pas, puis tout à coup, tu as comme un peu de géopolitique, puis cool.
C'est pour puis le premier Iron Man, c'est que...
C'est super bon.
Mettons que nous, on a une fatigue un peu des super-héros, ouais, ben là, on vient un peu lui faire porter le blâme. Mais c'est, le film en tant que tel, on devrait pas... T'sais, c'est un peu unfair. C'est un peu comme, mettons, haïr le premier La Matrice parce que les suites.
Mais le chunk dans Civil War avec Spider-Man, je trouve ça tellement hot. Je trouve que j'avais du fun, puis ça dure 15 minutes, puis après, il part, puis là, tu fais « Ah, mais... » C'est vrai, c'était là ça que je voulais qu'il continue. C'est vraiment le reste, là, en tout cas. Ouais.
Bon, fait que c'est pas toi pour qu'on passe au prochain chapitre.
C'est ça. Par défaut, Civil War, j'ai pas eu de vrai coup de cœur cette année dans les films de super-héros. Donc, mais Civil War, moi, je trouve que c'est quand même très bien fait. Puis c'est vraiment que les personnages sont bien développés. Puis
bon, il y a que ça finisse! Bon.
Sinon,
ça, c'est fait.
Au niveau des festivals cette année, les films des festivals, les films artsy, les films d'auteurs, les films étrangers, tout ça. Tu sais, comme la Palme d'Or cette année, là.
Hi, Daniel Blake, là.
Un peu controversé quand même.
Très controversé.
Parce que là,
surtout
vois,
que là, on a eu.
Les tops commencent à sortir, puis il n'est pas sur les tops.
Non, absolument. Puis, tu sais, même les tops consensuels, tu sais, le Sight and Sound, qui c'est plusieurs critiques et tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il est dans le top 10, peut-être en genre 9e ou 10e, quelque chose comme ça. Pour un film, tu sais, en plus, le Sight and Sound, c'est en Angleterre. Puis, tu sais, c'est traditionnellement Ken Loach, un chouchou un peu, veux pas. Mais non, ça a été vraiment, vraiment. Ben, en fait, tous les prix de Cannes, là, ça a été. Tu sais, c'est comme si c'était le monde à l'envers. Mm-hmm. Puis là, justement, les listes de fin d'année montrent à quel point c'était peut-être le monde à l'envers, ou du moins par rapport au monde critique, parce que Tony Herman, qui a passé les mains vides, là, présentement, c'est comme c'est celui qui est en train de faire consensus absolument.
Puis il avait remporté aussi la Louve d'Or au FNC, Tony Herman.
Oui, c'est ça. C'est quatre classes à part, là, vraiment. Ouais, ouais. Puis tu sais, dans le cinéma américain, ben là, mettons, ce qui fait consensus, c'est vraiment Moonlight et tout ça, là, mais ça, on pourrait y revenir peut-être. Ouais. Mais juste pour dire, les prix de Cannes et tout ça, c'était effectivement le monde à l'envers, j'ai l'impression.
Tony Endymion qui divise beaucoup. Il est sur certaines listes, d'autres non. Il est dans le top des cahiers.
Oui, exact.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Un personnage shopper qui avait gagné.
On dirait qu'il est rendu
très excité de voir ce film-là.
Ouais. Moi, c'est ma copine qui m'a dit que sa mise en scène, c'était un peu... Elle a été déçue par la mise en scène. Là, fait que je suis pas tant curieux de le voir.
C'est Elia Sayas, en plus. C'est tellement...
Ouais, mais c'est un film de texting, en grosse partie. Fait qu'il texte. T'as des shots d'écran puis de texto. Là. Puis tu sais, je viens de voir Mademoiselle, puis c'est comme... Côté mise en scène, je sais pas si tu peux faire mieux que ça. C'est tellement... Tout est calculé, maîtrisé. Moi, Mademoiselle va être très haut dans mon top.
C'est
là,
qui déjà, ce cinéaste-là?
Je sais pas trop. Je pense que c'est un petit film qui s'appelle Old Boy.
Mais Paul Verhoeven a fait de quoi de très intéressant avec un film qui, sur papier, c'est un film français barbant. Tu sais, la fameuse catégorie du film français bavard, là, un peu. Là, le plus gros cliché du monde ignorant là, qu'on a. Puis vraiment, sur papier, on pourrait avoir l'impression qu'on pourrait avoir ce genre d'impression-là. Mais d'entrée de jeu, je pense que Verhoeven, c'est comme à coup d'adrénaline, là, la mise en scène.
Ouais.
Puis la chorégraphie de sa mise en scène aussi, il y a l'intelligence de... Puis on en parlait un peu off-record, tu sais, Rémi et moi, mais c'est l'intelligence d'avoir finalement... par exemple, c'est pas un spoiler, mais tu sais, le film est centré sur une scène de viol. C'est ça. Le film ouvre sur cette séquence-là. Mais je veux dire, la façon et l'intelligence de sa mise en scène, tu sais, il l'a chorégraphié. C'est vraiment...
Fait qu'on est plus près de Michael Haneke que de Gaspar Noé.
Oh my God!
Mais
la question avait été posée, c'est ça?
On est assez unique, je t'avoue. Et c'est ça qui était vibrant, en fait. Puis c'est un Christ de beau personnage. Isabelle Huppert, le backstory, c'est un film qui,
c'est
moi...
C'est parce que ça a mené des débats de... est-ce que le film est misogyne? Écoute, mais en même temps, c'est une étude de personnage qui est troublé de base. C'est sûr que le film est troublant, mais la misogynie là-dedans...
Non,
genre,
moi, je la vois pas. Je la vois pas, mais tu sais...
Mais tu sais, quand t'es dans une étude de personnage comme ça, c'est sûr que ça va être...
Disons que c'est vraiment un film qui nous amène... Comment dire? Que c'est par sa mise en scène et sa fougue de mise en scène que le film devient un ovni, en fait. Puis c'est beau, les films ovnis.
Moi, je suis sorti.
Puis elle, c'en était un.
Je pouvais pas parler en sortant. sais, c'est, j'ai de la misère à... Il fallait que je sois un peu dans ma tête puis que je le gobe, je le digère. Là, ça a vraiment frappé fort.
Et c'est un film... Je veux pas qu'on passe nécessairement trop de temps sur ce film-là, mais c'est un film qui, pour moi, fait quelque chose de révolutionnaire. C'est l'intégration de la backstory. Parce que, tu sais, ça pourrait être cheap, ça pourrait être de la psychanalyse cheap parce que le personnage a un traumatisme qui est exposé à pleurs d'oignons dans le film, que je révélerai pas ici parce que c'est vraiment intéressant. Mais c'est la backstory, là, tout à coup, de ce personnage-là, là, lui donne, la rend vertigineuse, la rend doublement plus fascinante. Et c'est sa façon lucide d'aborder son trauma aussi, en lumière aussi de son nouveau trauma, qui est le trauma du film, là, le fameux viol. C'est immensément intelligent, puis c'est comme genre, ça, c'est la façon de faire une backstory qui enrichit réellement le personnage, au lieu d'être de la psychanalyse cheap, genre, qui justifie un personnage de façon complètement bâclée, tu sais. Non, moi, c'est un film qui m'a vraiment inspiré d'un point de vue scénaristique et de construction de personnage. Vraiment, vraiment.
Ouais. Sinon, parmi les autres films étrangers, on en parlait tantôt en venant vers Sherbrooke, toi puis moi, Pascal, c'est que...
On a fait le podcast dans le char en s'en venant, en écoutant de la musique.
Ça, on se préparait, puis tu sais, il n'y a pas vraiment le gros film, c'est un étranger qui ramasse tout, tu sais, il n'y a pas comme une espèce de films comme Le Fils de Saul l'année passée ou des trucs comme ça. À Venise, il y a Lav Diaz qui a gagné un prix, mais là, tu vois, le film, on n'en parle plus bien dans les...
Mais on dirait qu'il y a Cannes puis il y a les autres. On dirait que de plus en plus, on dirait que c'est ça qui se passe. Il y a Cannes, puis il y a Toronto un peu pour placer pour les Oscars.
Mais là, ça serait quoi le frontrunner, c'est Tony Hernan?
Mais ce que je veux dire, c'est comme, nomme-moi qui a gagné dans, tu sais, mettons, à Locarno, à Berlin, à tout ça. Ouais. Tu sais, oui, c'est comme à Berlin, c'était Foucault Amaré, le documentaire Fire at Sea. Ouais. Bon, il y en a d'autres comme ça. Oui, on peut les citer à droite, à gauche. Mais vraiment, c'est Cannes, là, tu sais, je veux dire. On dirait que, me semble plus que jamais. Non, il me semble que plus que jamais, il y a juste Cannes, on dirait. Dans l'imaginaire cinéphile des gens, c'est peut-être juste moi, je sais pas. T'sais, qui a gagné à Venise cette année?
Lav Diaz.
OK, ben c'est ça, tu viens de dire. Ouais. Qui a gagné Berlin, Foucault Amaré? Qui a gagné... Bon, tu sais, je l'ai
fait.
Ou FFM,
c'était...
non, mais je sais pas, mais bref. Mais la Palme d'Or, ouais, contestée, définitivement. Surtout que là, on commence à les savoir, les films de Cannes, tu sais. Ouais. Moi, j'ai vu, tu sais, par exemple, un autre film de famille dysfonctionnelle que j'ai adoré, que j'ai pas eu la chance d'en parler, mais j'ai vu au FICFA à Moncton, j'ai vu Sierra Nevada, qui a gagné d'ailleurs le prix à Moncton. Film de 3 heures sur un souper de famille dysfonctionnelle qui tourne mal, tu sais. Puis j'étais comme... C'était pas le Dolan, le film de famille trouble, là, cette année-là, à Cannes. C'était le film de voyons, Christy Pugh, le film roumain. Tu sais, on les reçoit, ces films-là, puis il me semble que plus on en reçoit, plus on se rend compte à quel point que la compétition à Cannes cette année avait de la profondeur, puis à quel point que les prix sont peut-être un peu bizarres, effectivement. Fait que c'est...
Ouais, en même temps, c'est seulement une poignée de gens qui distribuent les films à Cannes.
Ah, oui, absolument.
C'est quoi, un jury de 10 personnes, puis that's it, donc... Oui. Ensuite, ça peut toujours faire la controverse, mais eux, c'était leur opinion.
Exact. Moving on.
Fait que c'est ça. Sinon, nos films favoris de l'année, jusqu'à date, là, sans nécessairement faire un gros palmarès puis nommer 50 films, parce qu'on n'a peut-être pas le
puis
temps.
Puis on est déjà à une heure quasiment de recording.
Fait que t'as juste un film ou deux chacun qu'on veut vraiment défendre. Là. Toi, Rémi, là, t'as un film... Là, que...
ben, j'en avais noté beaucoup, moi, plus.
T'as adoré Opération Avalanche aussi.
Hein. Oui, bien, moi, en fait, côté festival, moi, c'est parce que je suis plus dans les festivals de genre, comme vous savez.
C'est ça, t'as vu plein de films au BIFF.
Moi, j'ai vu 30 films au BIFF puis 30 films à Fantasia. Fait que moi, ça a été
les
deux gros festivals. Mais malheureusement, le BIFF, c'est qu'il pogne souvent les films en fin de parcours, fait que c'est des films de 2015 qui ne pourront pas rentrer. J'avais vu entre autres Green Room qui est comme, pour moi, c'est tellement... Ça, c'est un film...
C'est super beau.
Un film d'horreur, là. Ça aurait été haut dans ma liste, mais tu vois, je l'ai vu cette année, puis c'est en short
Vous avez vu au FCVQ, vous en avez vu quelques-uns, vous avez vu le Jarmusch.
Ouais. Moi, Patterson, je l'ai noté. Patterson, j'ai vraiment beaucoup aimé ça.
Ça, c'est peut-être le petit film un peu... genre que l'air de rien, puis finalement, tout le monde fait comme « Ouais, on le met dans le top 10.
Ouais, »
C'est
ouais,
comme
ouais,
un
ouais,
des
ouais,
meilleurs
ouais,
films
ouais,
de l'année.
Ouais,
puis,
mais sinon, Fantasia, moi, il y en a 3 qui pourraient se arriver dans ma liste. Malheureusement, un autre de 2015, c'est Deleur, le film de Sirène.
Ouais, t'en as parlé.
Ça, c'est génial. Mais les 3 qui peuvent arriver dans ma liste, qui pourraient arriver dans mon top, on verra. Il y a Opération Avalanche, donc le faux documentaire sur les gens qui ont faké le voyage sur la Lune.
Film canadien.
C'est bon, ça a des couilles.
C'est tellement créatif comme film. C'est tellement de bonnes idées.
C'est pas exempt de... Le niveau rythme, des fois, il y a des petites drops, je pourrais dire.
Ouais.
Ce serait ma seule critique parce que le film, c'est un bonbon. Là.
Ben, c'est ouais. ça. C'est, ouais. c'est tellement ouais. fun, mais c'est tellement. C'est des bonnes idées, des nouvelles
film
idées.
Canadien,
en fait.
Hein,
film canadien, hein. Film canadien fait avec un petit budget. Film canadien. Avec des scènes sur le plateau de Kubrick. Là, c'est comme. C'est genre. Ça n'a pas de sens, ce film-là. Il
ouais,
y avait The Wailing, bon, le film coréen. Ouais. Ça, on a beaucoup parlé de ça.
De 2h30.
Puis il y en a qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais Hunt for the Wilder People, là, avec Sam Neill.
Je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu entre temps.
Ouais,
j'ai beaucoup aimé aussi.
Mais moi, ça, c'est une des bonnes comédies indie que j'ai vues cette année. Ouais, vraiment.
Ça, c'est le up en live action.
C'est le up en live action. Ouais. Ouais,
up de Pixar.
C'est ça que j'avais mis en plus dans ma critique, mais ouais, c'est. C'était le vieux monsieur un peu bougon avec un petit gros qui est un peu gangster.
Qui s'en va en forêt.
Mais qui se perd dans le forêt, dans la forêt.
C'est un beau ton, c'est un film vrai. Ouais, c'est
bien tourné, c'est bien beaté.
C'est vrai.
Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, puis sinon, ben, on a parlé d'une couple, mais tu sais, Mademoiselle, Arrival, elle, puis Midnight Special, je les avais mis aussi dans ma liste, là, mais...
Cool.
Mais moi, j'ai hâte de voir parce que moi, il y en a beaucoup cette année, beaucoup de coups de cœur.
Moi, c'est ça, c'est que j'attendais que mon festival soit fini puis ma session pour comme commencer à écouter des films.
Ouais,
mais
ouais.
À part ça qu'on a déjà nommé, O.J. Made in America. Pour vrai, c'est un documentaire, là, mais c'est tellement plus que sur O.J. Simpson. C'est tellement important. Un film de 8 heures qui vraiment recontextualise non seulement O.J. Simpson, mais ça va au-delà de ça. Ça parle de l'Amérique, ça parle de la situation en 2016, ça parle des tensions raciales, ça parle de pourquoi on est rendu là, de la gentrification, de tout le contexte. Puis, tu sais, je sais qu'il y a aussi eu une version avec des acteurs, avec Cuba Gooding Jr., qui a eu des très bonnes critiques, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas reproduire en fiction. C'est la réalité, c'est des images d'archives du vrai tribunal avec les vrais gens qui sont là, puis les rebondissements. Tu sais, on parle d'un tribunal, là, on parle d'un procès qui a duré un an. Là. Fait que quand tu fais ça, tu coupes ça, mettons, c'est à peu près 2 heures sur le documentaire, là. Bien là, tu te fais un méchant best-of, là, puis c'est tellement bon. Là. C'est comme toutes les meilleures bouts, là, puis toutes les grosses controverses. Là, puis là, c'est comme, on a juste une question. Puis là, tu sais, mettons, le procureur dit, on a juste une question pour O.J. Simpson, ça. Puis là, mettons, là, ça coupe avec, il explique au présent, je le savais qu'on n'aurait jamais dû poser ça, c'est là qu'on a perdu le projet, le procès. Puis là, ça revient à, est-ce que vous pouvez essayer le gant? Puis après ça, tu vois,
le fameux gant qui image mythique.
Qui était imbibé de sang, qui est devenu, qui est d'ailleurs l'affiche du documentaire, qui a été repris. Puis on le voit, je suis en caisse le gant, ça marche pas. Tu sais, de voir l'image granuleuse, parce que c'est aussi un des premiers procès aux États-Unis qui a été filmé, en fait, qui a été diffusé sur les chaînes de télévision. C'est un peu comme la commission Charbonneau ici, là, c'est-à-dire que tous les jours...
on pourrait en faire un film avec un esprit de montage, de synthèse, puis avec un recul historique, socio-historique.
Fait que pour eux, c'était vraiment comme... Puis moi, je me rappelle, j'étais tout jeune, je me rappelle encore des images d'avoir vu en direct, ça révèle un peu mon âge, là, mais d'avoir vu ça, la poursuite en hélicoptère de O.J. Simpson qui veut pas se rendre à la police, puis tout le monde qui le poursuit, puis qui bloque l'autoroute pour qu'il soit tout seul, puis qu'il n'y avait pas de trafic autour de lui. Puis, bien, tu sais, j'étais trop jeune pour comprendre l'impact de ces images-là, puis la signification. Puis d'avoir vu ça maintenant, ça m'a vraiment remis en question. Pas remis en question, mais j'ai pu réévaluer ces images-là, puis mieux les comprendre peut-être. Puis, tu sais, c'est des images pour moi qui m'avaient autant marqué que, mettons, le 11 septembre. Mais le 11 septembre, j'étais plus vieux, donc j'avais peut-être plus déjà de compréhension, mais encore là, j'étais jeune. Donc, il y aurait un autre film à faire sur le 11 septembre, sur les conséquences. Puis ça prend une distance.
Ouais.
Ça prend, tu sais, le 20-25 ans pour se dire, ouais, finalement, s'il n'était pas coupable, c'est peut-être parce qu'on avait tel problème à cette époque-là, tel contexte. Donc, non, c'est vraiment... Tu sais, pour moi, c'est même si c'est du documentaire, même si ça le jouait à la télévision, je veux dire, pour moi, c'est peut-être le film le plus important de l'année. Là. Donc, puis c'est au-delà aussi du contexte. C'est une leçon de montage, une leçon de comment tu fais un documentaire qui est fascinant, qui est captivant. Ouais.
Un peu comme, tu sais, le Sénat ou Emmy, par exemple. C'est ce genre de travail-là, d'autant être capable d'engager avec l'archive aussi.
Ou de Jinx aussi, l'année dernière. C'est ça, c'est des documentaires monumentaux. Ça, j'en ai toujours pas vu.
Ça a été 10 ans de travail là, pour faire la série. Là.
Et parmi...
C'est vraiment du montage. C'est juste des images d'archives.
Tu le sens, le travail. Genre, ça se sent quand tu es vraiment comme « wow », ça paraît que ça fait des années qu'ils sont là-dessus. Là. C'est ça, c'est la maîtrise. Là. Puis un autre film qu'on n'a pas encore nommé, qui est dans mes coups de cœur de l'année, puis ça va peut-être rentrer sur mon top 10. Puis c'est pas mon style de film d'habitude, mais c'est vraiment le film le plus drôle de l'année, selon moi, c'est Popstar.
C'est quoi ça?
Le film des Lonely Island.
Popstar, c'est le mockumentaire. C'est une espèce de parodie de genre Justin Bieber. Là. C'est comme Never Stop, Never Stopping.
OK.
T'as pas vu ça? T'as pas entendu parler de ça?
Non, c'est le film des Lonely Island.
Vous connaissez ça,
Popstar,
ouais?
J'ai pas vu, mais
ouais, ben, en gros, c'est ça. C'est Lonely Island, qui est comme, dans le fond, un vrai faux groupe, là, t'sais, qui font des parodies. Puis que c'est un peu comme le This is Spinal Tap de 2016. Là. C'est comme, il parodie un peu, justement, à la Justin Bieber, l'espèce de film biopic typique. Mais c'est tellement drôle parce qu'en plus, il y a tout un schéma qui reverse les rôles parce que là, bon, le personnage principal, Connor For Real, represent, qui est un blanc, qui est Andy Samberg. Puis là, t'as toutes les entrevues, puis il y a tellement de caméos, là. Puis tu sais, c'est, mettons, t'as genre Questlove ou t'as Pharrell ou t'as genre plein de monde qui sont comme, ouais, Connor For Real, c'est vraiment l'inspiration, c'est un héros pour moi. C'est un génie, ce gars-là, il est tellement bon avec ses beats. Je te jure, tu trouverais ça hilarant, là.
Okay.
C'est comme This is Spinal Tap, là, mais comme pour la nouvelle génération. Puis il y a des dialogues tellement cons, là. Genre comme... c'est malade, là. Comme à un moment donné, tu sais, il y a une réunion,
N'en dis pas plus.
Ouais. Mais tu sais, comme, on est, genre, il est 19h.
Ça n'a pas l'air de faire l'unanimité, mais on...
Tellement bon. Puis là, à un moment donné, il est comme...
Les 100 personnes devant nous, ils hochent la tête, là.
Tout le monde fait non de la tête.
Non, c'est ça, les 100 personnes en même temps font non ou grossent les épaules.
c'est un nom qui veut dire oui, là.
Ah non, c'est vraiment génial. Puis comme, tu sais, c'est un peu l'inverse d'un This is Spinal Tap. This is Spinal Tap, à la base, c'est pas un groupe, mais ils ont quand même fait la musique originale pour le film. Et le film a tellement été un succès qu'ils ont vraiment fait des tournées, ils ont vraiment fait des albums. T'sais, à un moment donné...
Parce qu'un Spinal Tap 2, qui est un show, en fait, de Spinal Tap, c'est vraiment un live de Spinal Tap.
Il y a pas longtemps, je pense en 2008, ils ont fait leur World Tour, qui avait exactement un spectacle. Fait qu'il y avait ça aussi.
Le World Tour
mais
de...
N'en dis pas plus. Non, mais c'est intéressant pour eux.
Mais en fait, c'est ça, c'est que... Popstar réussit partout là où Zoolander 2 échoue.
Ah.
C'est exactement le même type de style puis d'humour absurde,
ouais.
Bourré de caméos. Mais Zoolander 2, c'est plat, c'est plate. Popstar, c'est hallucinant, man. C'est un après l'autre, là. Ça dure genre 80 minutes, c'est parfait. Genre, les chansons sont bonnes aussi. Genre, j'ai le goût de les réécouter, là. Genre, la chanson du début, là, c'est « I'm so humble, I'm fucking humble », ça. Puis c'est comme tellement drôle, là. Parce qu'en fond, il fait juste comme être trop,
pas humble.
Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, méga vedette. Mais il y a aussi, tu sais, des jokes de pénis, tout ça, mais bien faites, là. Tu sais, c'est...
Des bonnes jokes de pénis, des bons pénis de merde.
Et d'ailleurs, parlant d'humour puis caca poil, juste une mention pour l'humour, tu sais, scatologique et nécrophile de Swiss Army Man.
Oui, quand... dans mes mentions, c'est sûr.
C'est quand même...
sable.
Tu sais, j'ai pas tellement aimé le film, mais faut reconnaître quand même l'audace.
C'est un weird shit, là. Tu le vois puis tu t'en souviens de ce film-là.
Ouais,
il sera pas dans mon top 10, mais il va être dans mes mentions, c'est pas mal certain parce que... Ouais, c'est assez particulier. Puis c'est fou parce que la bande-annonce, il y a tellement de trucs weird dedans, mais c'est tout au début du film. T'as comme... Il y a tellement de découvertes à faire dans ce film-là. Qu'est-ce que le cadavre de Daniel Radcliffe peut faire? Une boussole avec son pénis, puis tu as des harpons.
Mais tu sais, quand tu crées tes propres règles tout le temps, Mané, est-ce que... En tout cas, peut-être... Moi, le feeling que j'ai, c'est que à Mané... t'abdique à un certain point, mais en tout cas, je l'ai pas vu, donc
mais c'est le indie weirdo. Hey,
ça, c'est un méchant bon double feature, man. Tu te fais Popstar plus Swiss Army Man. Là,
puis tu finis ça sur Metro Rush, paf, c'est réglé. Guillaume Lemaitre, je fais des backflips.
Et je finirai, moi, je m'étalerai pas parce que j'en ai déjà parlé, puis c'est pas par fausse... c'est pas pour être un champion de quelque chose, mais je suis très fier que ce soit deux films de réalisatrices qui trônent pour moi complètement. Puis ceux qui suivent le podcast le savent, là, ça n'a pas bougé depuis, puis je pense pas que ça va bouger d'ici la fin de l'année. American Honey d'André Arnold, un putain de chef-d'œuvre. Puis Tony Erdmann de Marinade, que j'ai eu la chance de voir au FNC. Putain de chef-d'œuvre, mais qui te frappe pas d'entrée de jeu. Un film qui commence comme ça commence, tu te perds un peu dedans, puis le film finit, puis t'es comme, OK, je viens de voir du génie. Mais c'est un film qui, le génie te frappe pas à coup de batte de baseball, le génie se faufile sous la peau pour finir sur la plus belle note de cinéma de l'année. Fait que c'est les deux miracles de 2016 pour moi.
Trop rush.
Ouais, faudrait que je les vois ce film-là quand même, avant de faire mon top. Hein?
Voilà.
Faudrait.
Sinon, est-ce que dans le public, il y a des films, vous, qu'on n'a pas encore parlé, là, des films préférés cette année, là, qu'on n'a pas encore mentionné? Là?
Arrival.
Ouais, Arrival. Ouais, on en a beaucoup parlé, en fait, au dernier podcast. Moi et Rémi, on est ultra fans de ce film-là. Puis comme je disais, c'est que c'est vraiment le fun de pouvoir dire que le meilleur film américain de l'année, c'est réalisé par un Québécois quand même. Là. Donc ça, c'est cool. La direction photo, très cool. Bien, c'est pas tellement la direction photo que l'univers en place, tu sais, l'iconographie, tu sais, les concepts, c'est très visuel, c'est très bien.
Ah oui. J'ai une note, un autre film canadien, parce que quand même, deux films canadiens anglais. Moi, je seconde Rémi sur Opération Avalanche. Christ de bon film. Ouais. Mais Werewolf de Ashley McKenzie, qui a gagné le meilleur film canadien au FNC. Un film réalisé avec le programme de micro-budget téléfilm, fait que techniquement avec moins de 250 000 $ donc des peanuts. Mais Christ, les peanuts, ils marchent à l'écran. C'est un film sur un couple qui veut se sortir qui sont sur le programme de méthadone pour se sortir de leur problème de drogue. Puis elle veut s'en sortir un petit peu plus que lui. Fait que disons que c'est juste ça le drame, finalement. C'est un peu de comment un couple d'addicts qui essaie de s'en sortir pas au même rythme, qu'est-ce que ça donne. Puis c'est juste une très, très belle observation à la loupe, tout en sensibilité. Mais en même temps, beaucoup de guts, beaucoup d'audace, beaucoup de poésie aussi à travers. Non, superbe film. Fait que deux films canadiens-anglais, quand même, les chums, qui sont...
Superbe. Bien, on se sépare plus, écoute.
C'est ça. On se sépare plus, c'est fini. Ça vient de tuer notre fibre indépendantiste. Fait que... non, moi, pour vrai, ça fait déjà le tour. Puis je me garde des surprises pour ma liste aussi.
Bien oui. Puis on se permet de pouvoir en rattraper aussi, pouvoir en ajouter. Est-ce que sinon, il y a d'autres questions dans le public en délire de Sherbrooke? Oui, c'est ça. Pour ceux qui sont arrivés à mi-épisode, on va recommencer le début. Non, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été là.
Oui, merci.
Très apprécié. On est content de venir à Sherbrooke, venir à la capsule. Très bel endroit, d'ailleurs. Hein? Moi, honnêtement, j'habitais à Sherbrooke. Je viendrais souvent à la capsule. Ça a l'air vraiment cool. Ça a l'ouvert en nous. Puis on espère que... Non, mais c'est très sincère. Moi, je suis vraiment content.
C'est sincère. Tout le monde a été super emballé dès qu'on est rentré dans l'espace. C'est un très, très bel endroit.
Fait que descendez à Sherbrooke, allez au Louis Lunchonette, allez à la capsule.
Manger de la poutine, smoke meat.
Avec ketchup.
Un petit film à la maison du cinéma, vous retournez à capsule. Exact. Ça fait une belle journée diversifiée. Ouais.
Mais je pense que c'est pas la dernière fois qu'on vient ici. Ouais.
Allez, gars, 150e?
150e.
Wow. That's a wrap.
High five!
Tu fais ta conclusion quand même.
C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.